Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma ? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va Réu. Alors une semaine après Déborah et Mathieu, on va reprendre notre débat interminable sur Jigsaw et notamment John Kramer. Alors on avait survolé, hein, rappelez-vous, les 10 films de la saga Saw en une heure express, qui est déjà putain, un sacré gros morceau. Je sais pas si vous avez revu des films Saw depuis la dernière fois, Mathieu t'en as revu, toi t'as rattrapé des trucs?
Ouais, j'ai revu tout sauf Spiral parce qu'on l'avait vu à l'époque. Ouais. Pour la simple et bonne raison que je ne me rappelle de rien. J'avais déjà tout revu à l'époque de Spiral parce qu'on avait déjà fait moult dossiers, etc.
Qui avait encore beaucoup marché à l'époque. On retient pas les leçons.
Quand même beaucoup plus, hein, parce que la critique, elle a quand même tapé dans les 20 000, je crois, alors que là, celle de Saw 10.
Remue pas le couteau, s'il te plaît.
Elle est à combien ?
Je sais pas, elle doit être.
En dessous des 10 000. Hein,
ah ouais, ouais. Je pense. Ah, donc vraiment, la planète s'en fout. Si.
Non, je crois qu'elle avait dépassé quand même les 10 000.
Bon, à peu près deux fois moins que Spiral.
Ouais, c'est ça, voilà. Alors que le film a fait trois fois plus. Mais ouais, du coup, en fait, je suis obligé de tout me retaper à chaque fois parce que contrairement à plein d'autres films dont on parle en réu, j'oublie tous ces twists de merde, ces genres de trucs.
Non, ça, c'est vrai que Saw, pour le coup, ça doit faire partie des franchises que j'ai le plus revues. Et là, quand j'avais dit ouais, je fais la chronologie, il n'y a aucun souci et tout, j'ai commencé. Puis d'un coup, je me suis posé une question, puis deux, et puis attends, non, mais ça, c'était dans quel film déjà? Et du coup, je me suis dit bon, allez, pour préparer la réu, je vais tout regarder et je me suis fait des nœuds au cerveau. Du coup.
Non, mais c'est terrible parce que je les ai revus aussi, mais en l'espace d'une semaine, je les confondais. Et encore aujourd'hui, quand tu me dis oui, dans Saw 7, il y a ça, je dis attends, dans Saw 7, c'est qui le héros? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Ouais. Il faut vraiment tout le temps avoir un énorme post-it sous les yeux, quoi.
On les a tous regardés sur un écran en bossant sur l'autre, enfin moi en tout cas.
Non, moi j'étais concentré la plupart chez
Attends,
moi.
T'as vraiment
et tout, quoi.
Sacrifié
vraiment.
10 heures de ta vie à t'installer
j'ai une vie
devant
triste. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Enfin, en tout
et
cas,
ça n'a pas aidé à la rendre plus jolie, hein, je t'assure.
Verpisse, comme disait Déborah.
J'aime beaucoup la couleur de ce filtre.
En tout cas, on s'est arrêté sur l'état actuel en arrivant à Saw 10 qui vient de sortir en 2023, qui cartonne plutôt bien, en tout cas qui marche du fou. Comparé à Spiral qui s'était vautré, et on était arrivé surtout à la question épineuse de John Kramer, et on n'était pas trop d'accord parce que pour vous, le problème de Saw 10, qui est au demeurant assez sympathique côté boyau et intestin utilisé comme un lasso, c'est la manière dont John Kramer est utilisé et la manière dont il est un peu rendu héroïque, en tout cas en premier plan. C'est plus un antagoniste, c'est quelqu'un dont on comprend un peu les raisons, les explications. On se dit, oh le pauvre quand même, non seulement il est malade, je sais que sa femme, son bébé, il a beaucoup de problèmes, et en plus il est arnaqué par une Suédoise complètement tarée qui a les mains pleines de sang symboliquement et littéralement à la fin. Donc le pauvre John Kramer, on comprend qu'il a envie de punir les gens méchants. Et Déborah est en train de trépigner et de me sauter à la gorge pour me dire, mais oui Geoffrey, tu n'as pas de cœur.
Mais oui, mais c'est ça, il est vraiment dépeint. Bah, en plus, Tobin Bell est un vieillard, hein, c'est pas du tout péjoratif, mais il est vraiment dépeint comme ce pauvre vieillard, comme ton papy qu'on aurait escroqué. Et il y a vraiment ce côté victimisation de John Kramer que je trouve dégueulasse. Alors oui, effectivement, le pauvre dans sa vie, il a pas eu beaucoup de chance. Hein. Sa femme, elle fait une fausse couche à cause d'un toxicomane. Il a un cancer qui aurait pu être détecté plus tôt s'il n'était pas tombé sur un branque infirmier. Enfin, oui.
Il a eu un accident de voiture.
Ouais. Ah ben, bon, ça c'est un suicide.
Globalement, le mec attire quand même le malheur parce que il y a ça, il y a les gens qui étouffent leur bébé, la maison d'à côté. Ça va être cette période-là. Enfin, le mec, pendant, sur 3 semaines de sa vie, il y a tous les malheurs du monde qui sont passés dans un périmètre de 10 km.
Ben voilà, tu comprends pourquoi il a envie de punir le peuple.
Mais attends, mais il y a plein de gens à qui il arrive des trucs horribles et qui se mettent pas à mettre des pièges à ours inversés sur la tête des gens.
Devrait.
Et puis là, il y a vraiment donc, déjà ce point de départ. Donc voilà, John Kramer et tout, au final, il retrouve de l'espoir. Donc tu te dis, s'il avait été guéri, peut-être qu'il aurait, il aurait arrêté en fait ses crimes et tout. Et donc en fait, c'est peut-être à cause de ces gens, si toutes les autres victimes de John Kramer, elles existent, alors que bah non, c'est la faute de John Kramer et John Kramer seul, enfin, et Amanda et Gordon et Nelson et, et compagnie.
Le clan.
Et donc là, en plus, à un moment, le film, il est assez hypocrite sur sa démarche, parce que bah, t'as le personnage de la blonde, là j'ai oublié le nom, bon, qui est la grande méchante.
La méchante.
Voilà, qui essaie un peu de dire à John Kramer, mais d'où tu te permets de faire des leçons de morale alors que tu fais ça. Donc tu dis, ah, est-ce que le scénario veut mettre un peu John Kramer bah, le nez dans son caca ? Non, pas du tout. C'était juste balancé comme ça parce qu'au final, après, on se rend compte qu'elle est bien pire et qu'au final, elle mérite ce qui arrive. Je veux dire, au final, la gentille Gabriella, là, qui est le personnage qui est fait pour que tu te prennes d'empathie pour lui, qui, au final, a été sauvée par John Kramer et elle sera plus
après
une droguée.
Après avoir été cramée.
Et après, au final, c'est la blonde qui lui torpille ses chances de survie et qui lui brise la nuque et tout. Enfin, c'est tellement gros dans l'écriture. Bon, il y a le gosse, on en avait parlé avant, qui est torturé et John qui est là, genre non, je vais pas laisser ce gosse souffrir et tout. Alors que,
mais justement, tu trouves pas que c'est intéressant que dans ce film, ils te mettent dans la face cette image absolument ridicule et grotesque d'un enfant sauvé par le tueur complètement taré et le fait que la méchante lui dise mais tu te fous de ma gueule, le fait qu'il place ça dans le scénario pour te mettre dans la position de mais c'est du foutage de gueule ce film en fait, mais ça, c'est... Pour moi, c'est quasiment intentionnel. Et si c'est pas intentionnel, c'est un accident que je trouve intéressant de te mettre dans cette position, de dire mais je sais que ce mec est fou et le film essaye de me le faire passer pour quelqu'un de gentil. Et ça finit quasiment avec l'espèce de fantasme de lui qui sort avec Amanda, le gamin. Tu dis mais c'est grotesque. Mais
t'as
pour moi, c'est grotesque intentionnel.
La lumière crépusculaire quasi divine. Après, le gosse, il vient de se faire mais torturer. Il a un
il lui
grand
donne
sourire
de l'argent
parce...
et tout. Tu vois, voilà. C'est tellement extrême que je trouve que c'est forcément intentionnel pour que tu dises mais c'est fou la saga. On est là à se dire en fait j'essaie de faire passer ce taré.
Pour un Robin des Bois.
Pour un mec à peu près gentil dans un monde qui est aussi désaxé, quoi.
Genre, c'est ça, il vient, vraiment, je l'avais dit dans ma critique, tel un Zorro en tricycle, rééquilibrer un système injuste et tout ça, parce que, au final, la police, elle peut pas mettre son nez là-dedans, donc c'est à John Kramer de faire ça, parce qu'il y a pas d'autre moyen. Mais non, en fait.
Tu vois, la scène où il répare le vélo du gamin, on dirait une pub Ricoré, et je trouve que c'est tellement ridicule que c'est forcément là pour te... Alors je ne sais pas, je ne vais pas leur prêter des intentions absolument intellectuelles profondes aux gens qui ont écrit le film, mais peu importe si c'est intentionnel ou pas, le fait est qu'à l'arrivée, quand tu vois le film, c'est tellement ridicule et grotesque que je me dis c'est marrant parce que ça te met dans cette position de débat de « mais en fait ce mec est fou ». Bah oui, il est fou, mais le film, dans cette espèce de boussole complètement pétée de « les gens sont méchants, lui il est méchant, mais il est moins méchant parce qu'il essaie de rendre justice » et il répète pendant toute la saga « mais moi je tue pas les gens
oui, ».
Je l'avais juste dans des situations où ils sont obligés de faire les trucs, tu dis bah, « en fait, mais si, il tue les gens, il utilise des moyens directs ou parfois très direct,
bah oui.
mais depuis le début de la saga, on essaie de te faire croire à cette mauvaise blague, je
non
trouve.
Non, mais alors, moi, c'est là où vraiment je suis pas d'accord, c'est que dès le premier film, il a ce truc de dire, moi, je suis pas un tueur, et en gros, je laisse une chance de survie aux gens. Le compagnon de cellule d'Amanda qui se fait ouvrir le bide, lui, il a eu zéro chance de s'en sortir. C'est un participant collatéral. Enfin, il a pas participé
exactement, c'est
à
une
ce
blague
jeu.
Depuis le début.
Il a égorgé un flic.
Au début, oui, justement, ça qui est intéressant.
Et voilà, donc en fait, on comprend bien que bah, de toute façon, pour mettre deux personnes comme ça enfermées dans une pièce et les obliger à se mutiler, à s'entretuer, il faut être dans un état psychologique assez dérangé. Voilà, ou douteux. Donc évidemment qu'il n'a pas de code moral. C'est pas un Batman qui remet de l'ordre dans Gotham en se disant non, je tue pas, non, je m'en prends pas à telle personne. Enfin, non, c'est juste un psychopathe. Il kidnappe des personnes qui ont strictement rien à voir avec les victimes dont il veut se venger, parce qu'aussi, c'est quelqu'un qui veut se venger. Hein. Dans le 4, non, dans Saw 5, ouais, dans Saw 5, dans un flashback, il dit à Hoffman ouais, il faut jamais que ça devienne personnel. Oui. Mais gars, depuis le début, tu ne fais que te venger.
Salut, c'est l'équipe d'Écran Large qui interrompt le podcast d'Écran Large. Si vous l'aimez, ce podcast, vous pouvez nous aider à le pérenniser et à l'améliorer. On a plein d'idées et de sujets dont on aimerait parler, pourquoi pas avec des invités. Tout ça, ça réclame des ressources qui nous serviront à mieux nous organiser et à nous équiper. C'est pour cette raison qu'on a lancé une campagne de financement participatif sur Ulule. Pour nous soutenir, tapez Ulule Écran Large sur Google et participez à l'avenir de ce podcast.
C'est pour ça que dans Saw 10, quand il dit il y a des gens qui tuent avec les faux espoirs, pour moi ça rentre dans la même c'est dans la continuation de toutes ces scènes dont tu parles qui sont ridicules, où on te dit il dit quelque chose et toi tu penses de l'autre côté de l'écran, non mais c'est une blague, c'est personnel pour toi depuis le début, tu tues personne, mais la personne que Amanda doit éventrer dans le premier, il y a tout un tas de preuves qu'il est fou et que t'es dans sa folie, et je me dis c'est amusant d'arriver à l'extrême de bah là il est carrément le héros, parce que non seulement c'est la continuation de cette réflexion, de ce code moral qui est complètement pété depuis le début, mais en plus c'est ce que le public veut en s'attachant à un mec qui est le fou dans une saga où il n'y a pas de héros normal et gentil, où ils sont tous tués, notamment Stram, c'est ouais, ça s'appelle, qui était un peu le gentil ultime, qui était un peu le bon flic et qui aurait pu devoir gagner. Et en fait, les gens ne veulent pas de ça, ils veulent du méchant. Du coup, on leur donne à l'extrême cette position inconfortable, mais dans laquelle ils n'ont pas l'air d'être gênés, de le mettre au premier plan, d'en faire le héros, la victime, en décalant absolument tout à un niveau que je trouve complètement grotesque, effectivement.
Bah, autant, c'est vrai qu'au début, sur les premiers films, moi, j'avais absolument jamais l'impression que ce soit au niveau du montage, de l'écriture ou de la réalisation qu'on essayait de me dire qu'au final ce qu'il fait c'est un peu bien John Kramer, même si dans le 2 il est avec, enfin, les gens dans la maison sont pas des personnes très recommandables, mais toujours est-il que là il n'y a pas cet effet de contraste dans l'écriture des personnages vraiment très très horribles au point où on va presque toucher le point Godwin qui a eu, bah, en fait plus tard il y a carrément eu des skinheads qui ont été torturés, et c'est dans le Saw 7, voilà, j'étais un petit peu passée à côté de cette scène, mais il y a un moment, c'est un flashback, c'est un JT d'une victime de Jigsaw, on n'a pas vu son piège, on l'a jamais vu, qui dit juste que en fait elle se sent en fait un peu reconnaissante et tout machin, et tu dis mais qu'est-ce, mais de
ça
quoi,
ça m'a choqué aussi,
et en plus il y a en contraste la survivante de Saw 6, tu sais, celle qui a dû couper le bras,
super énervée,
qui, elle, qui est super énervée,
c'est normal,
dit,
quoi.
Mais reconnaissante de quoi, mais non, c'est juste,
oui, quand elle vient
taré
dans le cercle de parole et qu'elle s'énerve, oui, en disant mais il y a aucune raison de remercier ou d'être heureuse, j'ai perdu un putain de bras.
Donc... voilà, ce qui a changé dans ma vie maintenant, c'est les places handicapées sur le supermarché et tout ça. Et bah oui, effectivement. Et dans le film encore d'avant, quand t'avais Hoffman qui venait la voir dans son lit d'hôpital et qui lui disait au final, vous avez retenu la leçon, et qu'elle s'énerve en mode mais quelle leçon. Là déjà, on sentait que la saga elle patinait un peu, et que t'es en mode ouais non, tu peux pas trop faire dire à une meuf qu'en fait elle est reconnaissante. Enfin, quand c'était Amanda, ça allait parce que tu comprenais très vite que elle était complètement déglinguée elle aussi, et puis que c'était une psychopathe en puissance. Hoffman, c'est pareil, c'est un psychopathe en puissance, donc évidemment que ça lui allait d'être le complice de Jigsaw, et encore c'était malgré lui, mais bon après il était bien content de le faire. Mais on nous a toujours montré que la façon de faire de Jigsaw n'entraînait que du mal et des psychopathes dans son sillage. Donc c'est pour ça que le côté en fait non, c'est un petit peu légitime ce qu'il fait, non, ça me dérange totalement.
En fait, je pense que le glissement il est après le 3, parce que la trilogie de Wannell, je trouve, reste dans ce que tu dis, Geoffrey, et toi aussi Déborah d'ailleurs, ce côté il n'y a pas de doute sur le fait que le mec est malade, il est fou. Voilà, vraiment, c'est vraiment un méchant de film d'horreur de façon extrêmement pop. Et d'ailleurs, quand on veut défendre la façon dont il est mis en scène par la suite, c'est l'argument qu'on continue à dire. C'est comme un tueur de slasher, quoi. C'est comme Jason. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est quand le 10 est sorti, on a eu des critiques du public, mais aussi de la presse américaine notamment, qui ont sorti des trucs du genre je suis sorti et j'étais très ému et tout. Mais ça ne viendrait jamais à l'idée de pleurer pour Jason. Le personnage de Jigsaw est vraiment devenu un héros, et le glissement se fait à partir du 3. Et d'ailleurs, Leigh Whannell, dans une des premières versions du script du 3, voulait faire exprimer des regrets à Jigsaw sur son lit de mort.
Intéressant.
Et lui, la façon dont il théorisait la chose, et pour moi ça prouve que Leigh Whannell, qui l'aura prouvé d'ailleurs par la suite, est aussi un bon scénariste, il peut l'être, c'est que il explique que les trois films, c'est la mise en pratique d'une théorie qu'il a eue après ça, dans une sorte de d'élan suicidaire, et que à la fin du 3, il se rend compte qu'il n'a pas prouvé sa théorie. Sa théorie est fausse, et les gens, comme la fille dans le 6, ne vont pas, de toute évidence, être soignés de n'importe quel problème qu'ils ont en leur coupant des membres, enfin, de façon assez évidente. Voilà. Or, à partir des suites, je trouve qu'il y a un glissement sûr. En fait, c'est la force des choses. C'est comme tu le dis, vu que c'est une saga qui est obligée de se baser sur la personnalité de Tobin Bell, etc. Forcément, on finit par tenir un peu pour lui, un peu comme on tiendrait pour Jason. Mm-hmm. À ceci près que la saga Saw revendique des questions sociales. Ça parle, dans le 6, ça prend à bras le corps la question de la crise subprime qui arrivait juste avant en mettant en scène des mecs qui boursicotent en gros sur des.
C'est l'immobilier, non? Dans celui-là. Non, c'est dans celui d'après l'immobilier.
Oui, parce que je crois que.
Ah, je confonds alors.
En tout cas, la question des assurances et de l'immobilier qui arrive.
Voilà, l'immobilier,
tu sens que...
c'est 5, assurance,
ah,
c'est 6.
Ah oui, c'est ça.
Et
okay.
C'est les fausses victimes de Bobby.
C'est vrai que tu sens que là, tu vas à une échelle effectivement politique de. On punit un système et des gens qui profitent du système et qui sont des pourritures.
Il y a vraiment une volonté de s'attaquer à des sujets de société, entre guillemets. Donc en fait, toi, t'es obligé de te positionner par rapport à ça et évidemment que personne va en regardant ça préconiser de torturer des gens pour enfin ça reste débile, les films assument toujours un truc un peu pop, donc en soi on pourrait toujours un peu les défendre par rapport à ça, mais pop ça veut pas dire qu'on réfléchit pas, hein. Et dans le...
Tu veux dire qu'il faut pas déposer le cerveau à l'entrée, je crois.
Voilà, c'est ça, non, mais c'est ça, tu vois, c'est l'argument.
Avec Saw, c'est encore plus dangereux, vraiment.
Ce qui fonctionne avec une saga de slasher un peu débile, et là, c'est vrai que ça devient un peu dangereux parce que, évidemment, que personne ne cautionne la torture. Par contre, et je pense que c'est vrai, ça s'inscrit quand même dans un mouvement un peu réac du cinéma d'horreur actuel, qui est pas toujours le cas, mais qui arrive. Deux, on cautionne sa logique, peut-être, la fameuse loi du talion qui est placardé comme ça, avec par exemple le personnage qui lui est super reconnaissant de l'avoir torturé. Et quand tu vois les raisons pour lesquelles des fois il torture les gens, ça fait un peu flipper. C'est vraiment Jigsaw, le bon défenseur des valeurs américaines. Alors l'adultère, c'est moins 50 points. Hein. On parle même pas du discours sur les drogues et l'addiction.
Ah oui, non, là, c'est... Je disais tout à l'heure, pour rigoler, c'est un peu le Thibaut in shape, sais, genre... John Kramer. Oh, bah, non, mais les addictions,
oui,
les causes sociales, la pauvreté, tout ça, non, c'est si tu veux, tu peux.
Ouais, c'est ça.
Bah non, en fait...
Comment ça, tu vas attirer dans la spirale de l'addiction? Eh bien non, tu me fais 10 pompes, tu arraches les tripes d'un mec, et tu vas voir, tu vas reprendre ta vie en main.
Rien à foutre ta dépression.
Mais tu vois, genre, intrinsèquement, mine de rien, sans l'écriture de Wannell, ça dérape un petit peu par rapport à ça. Et je trouve que le 10, c'est... En fait, il vient concrétiser ça de façon... Là où on avait un doute, c'est une évidence. Et il y a la première scène de torture du 10, qui est donc la scène d'aspirateur à œil, là.
Le fantasme du piège.
Ouais,
là.
Qui est justement un fantasme, parce que John Kramer surprend un mec en train de voler une montre à un gars mourant dans un hôpital. Qui est, si je ne dis pas de bêtises, un agent d'entretien, c'est ça,
ouais.
Il me semble.
Ouais. Oui, je crois. Oui.
Et lui, il imagine un piège pour torturer ce gars parce qu'il vole des affaires. Et s'il se ravise... C'est juste parce que il a pas la tête à ça, quoi. Tu vois, il vient de se faire diagnostiquer un truc, etc. Et c'est pas du tout parce que il réfléchit au fait que pourquoi un agent d'entretien en viendrait à voler un patient. Tu vois, le concept de contexte socio-économique, etc. Il en a rien à foutre.
Ah,
vraiment.
La sociologie, c'est clairement
voilà,
pas
c'est
pour
ça.
Lui.
Et du coup, il y a un peu ça derrière ces films de on réfléchit pas au contexte. C'est vraiment la loi du talion appliquée de la manière la plus bête. Et la question, c'est comment le récit le cautionne ou pas. Et je trouve que la saga Saw est fascinante dans la manière dont tu scénarises et tu mets en scène ce genre de problématique, ou comment tu assumes via ton écriture que ce que tu racontes est fictif et que ton personnage est un antagoniste et qu'il y a un truc qui s'est un peu perdu, et ce qui en fait, ce que je disais la semaine dernière, une pure saga d'exploitation dans le côté on finit par même oublier toute question de morale, etc. C'est-à-dire qu'en fait, passer un moment... dire moral comme ça, ça fait un peu petit prêtre de je veux savoir, mais ça cristallise le fait que l'appétence pour l'appât du gain, on veut toujours plus de films, etc. Et bah ça fait complètement oublier aux gens qui les font de réfléchir à la place que leur objet aura en société, quoi. Enfin, c'est et du coup, en prenant un peu de recul, ça rend la saga absolument fascinante, je trouve.
On l'a dit au départ pour rigoler, genre les pires raisons de se faire torturer dans la saga Saw. Au final, on en a fait un dossier, mais il y a quand même quelque chose qui ressort, c'est que dès le départ, Gordon, ce que lui reproche John Kramer, c'est d'avoir manqué de tact sur l'annonce de son cancer. Et d'avoir une relation extra-conjugale. Ce qu'il reproche à Adam, c'est d'être un indique des flics. Enfin, déjà, rien que là, le premier film posait le contexte. Voilà, John Kramer, c'est un énorme rageux et il n'est pas là pour s'en prendre aux pires personnes. Et enfin, ça vient après, mais il n'est pas là pour s'en prendre aux pires personnes. Hein. Il est là pour s'en prendre aux personnes qui l'ont froissé à un moment dans sa vie.
Oui, c'est ça. Puis il y a une part, je trouve, de hasard qui est assez terrifiante de... tu tombes au mauvais moment, au mauvais endroit avec lui, ça te tombe dessus. Genre,
ouais,
t'es
voilà.
Pas du tout la pire personne qui fait ça, t'es juste
tu
son voisin.
Voilà, tu prends une pause clope et il te voit et il dit « cette personne fume, ça veut dire qu'elle ne respecte pas sa vie. »
Mais
c'est ça
que authentiquement, je trouve... un mec qui est torturé parce qu'il fume, d'ailleurs.
Oui.
Mais c'est ça que je trouve assez terrifiant avec lui, c'est qu'en fait, c'est vraiment l'épée de Damoclès qui peut tomber sur n'importe qui de manière complètement déraisonnable, avec une boussole gratuite, en fait, de « j'ai décidé que toi, tu étais la personne qui devait payer pour les millions qui l'ont fait et vont
puis,
faire après toi. »
Surtout. il y a des victimes qui se retrouvent dans son piège. Déjà, on parlait d'Amanda, qui, elle, était une toxicomane, hein, la toxicomanie, qui est une maladie, qui a tout un contexte, qui est difficile à soigner. Et moi, l'exemple vraiment qui me rebute et me gêne, c'est l'exemple des femmes battues dans la saga. C'est-à-dire qu'il y en a quand même une où son épreuve, en fait, était de... Bon, elle avait des trucs plantés dans tout le corps, elle devait se les retirer parce qu'en fait, elle était victime d'un mari qui abusait d'elle, qui l'a frappée. Et en gros, ce que Jigsaw voulait lui dire, c'est... Bah, t'es un peu restée passive par rapport à tout ce qu'a fait ton mari, donc en fait, c'est un peu de ta faute, faut te sortir les doigts du cul, donc maintenant, en fait, t'y vas, quoi.
Tu as une occasion de t'arracher
voilà.
les entrailles.
Donc, déjà, il y a ça. Sauver. La première fois, je me suis dit, c'est très, très maladroit. Au final, c'est aussi maladroit que pour la drogue et tout ça. Et dans le set, il y a aussi une meuf pendant le groupe de parole là qui dit qu'en fait elle a aussi été piégée avec visiblement son petit ami ou mari violent et qu'au final c'est vrai que tout ça, ça l'a délivrée, ça l'a libérée parce qu'en fait, oui c'est vrai, cet homme était violent avec elle, il fallait qu'elle fasse quelque chose et au final Jigsaw l'a peut-être aidée à passer le pas et là...
Non mais c'est là que
c'est
je trouve
immonde.
Que ça ressemble à une espèce de secte et c'est d'ailleurs étonnant qu'il n'ait pas encore vraiment exploité de manière plus frontale de en fait ce mec là il crée une secte et les gens deviennent fous parce qu'ils ont tellement pas de repères eux-mêmes qu'il suffit qu'un psychopathe arrive en leur disant ça va t'aider, coupe-toi une jambe, je t'assure que Dieu ou je ne sais pas qui va t'aider et ils le font et d'ailleurs c'est pour ça que je trouve intéressant donc c'est dans le set où il y a celle qui s'est coupé le bras au début du film, s'énerve parce que t'as l'impression que c'est la voix de la raison de mais vous êtes tous complètement tarés dans ce groupe de parole et c'est ça que je trouve un peu intéressant c'est parfois de les à-coups de en fait, ils sont fous. Mais je suis d'accord sur le fait que c'est à partir du 4 pour moi que ça déraille parce que c'est là qu'on te montre les flashbacks. Je trouve que c'est un des pires trucs dans la saga, c'est les flashbacks.
C'est dans le 4 qu'il y a la scène avec la femme battue.
Ouais,
parce que c'est ça. Hein.
C'est Krieg, c'est ça.
Oui, non bah oui, ouais. oui. C'est ça, parce que lui, il doit pas sauver tout le monde.
Oui, voilà, pareil, tu vois la leçon que lui donne.
son cas est pas traité de la même manière du tout que celui d'Amanda. Amanda. Son cas souligne l'hypocrisie totale de Jigsaw, qui est un mec complètement taré, qui est persuadé qu'il va réussir à sauver l'addiction de quelqu'un. Et d'ailleurs, il réussit pas parce qu'il la reteste par la suite parce qu'elle se scarifie.
Ça, j'ai jamais trop su si c'était l'excuse qu'elle donnait aux autres participants en mode il me reteste parce que je me suis scarifiée donc ça doit être pour ça ou si c'est vraiment le cas. Non, ça y est, je suis en train de m'en souvenir en direct. C'est, je crois qu'il y a un flashback et c'est, je crois, John Kramer qui lui dit en gros de se couper pour tester sa résistance. En gros, elle se coupe les veines et elle fait ça devant lui pour lui montrer que voilà, elle résiste.
Ouais,
je crois que c'est un truc comme
ça. Quoi,
bref, en tout cas, il passe forcément pour un énorme connard. Alors que dans Saw 4 et la fameuse séquence avec la femme battue, je pense en toute sincérité que tu pourrais vraiment interpréter la séquence en te disant ouais, il a pas tort finalement, c'est un peu sa faute qu'elle se fait battre.
Mais surtout que c'est vrai que c'est pas traité, c'est-à-dire que c'est une étape parmi d'autres. T'as pas le temps de réfléchir, il se passe tellement de trucs, t'as deux histoires parallèles qui se passent un peu en même temps, ils se courent les uns après les autres, ça c'est une étape parmi d'autres, il y a plein de pièges, donc en fait il y a aucun moment de réflexion à aucun instant là-dessus. Quoi.
Ah bah non, parce qu'il y a juste un flashback pour nous expliquer que, oh là là, mais si elle avait parlé, en fait son mari serait allé en prison et peut-être que sa fille elle aurait pas été abusée, enfin bref, culpabilisation des femmes sous emprise, le truc bien dégueulasse, et juste la cassette audio où t'as Jigsaw qui lui dit oui si t'étais pas restée passive, machin, et après le film te demande pas de réfléchir plus que ça.
Là, c'est Jigsaw ou c'est John Kramer ou c'est Hoffman?
Alors,
parce qu'à un moment, le passage de relais à Hoffman qui est plus fou que.
Bah,
et comme
que
Amanda.
Vu que ça se passe en même temps, normalement, c'est encore les pièges de Jigsaw.
Okay.
C'est certainement Hoffman et Amanda qui l'ont aidé parce qu'il était trop faible et tout ça, mais c'était encore le cerveau de l'opération.
Parce que là, à un moment, il t'explique aussi que John Kramer juge la manière dont les autres appliquent son code moral en disant « Vous ne leur donnez pas une option, vous abusez. » Tu comprends qu'Hoffman, c'est la version pire de John Kramer. Parce qu'il fait on te montre... En tout cas, on veut te faire comprendre qu'il est pire que lui, qui fait
oui,
les trucs de
manière beaucoup plus
chaotique. Oui, ou même
Amanda, tu comprends qu'après,
oui, Amanda,
comme celui qui est dans la salle de classe et
justement,
tout.
Justement,
Alison Kerry, elle la tue directement, elle n'a pas d'échappatoire.
Oui, voilà. Enfin, si, en gros, elle passe l'épreuve, mais ça ne change rien.
Oui, c'est ça. En fait, il n'y a pas d'option. C'est que tu ne peux pas sortir comme la pièce dans l'école, là où le mec, il se fait couper avec l'âme.
Oui, mais ça, c'est parce que c'était Hoffman qui a buté le meurtrier de sa sœur.
Oui.
En se faisant passer pour John Kramer.
Parce qu'il prend les choses trop personnellement.
Mais encore une fois, tu vois, le fait d'introduire Hoffman en tant que successeur, les successeurs finissent par légitimer l'action de Jigsaw. C'est-à-dire que par contraste, on se dit, Hoffman, c'est vraiment, il pervertit les enseignements de Jigsaw. Du coup, ça veut dire que les enseignements de Jigsaw à la base, ils sont, justes.
Oui, oui.
Tu vois.
Bon, alors, moi, je vois ça la spirale de la violence qui, comme tu le disais, je crois, Déborah, ça ne soigne rien, ça ne fait que surenchérir. Et en fait, à chaque fois, ça va devenir de pire en pire. Et la preuve, c'est qu'en pensant aider les gens, en fait, il leur donne une fausse solution qui les rend encore plus fous en leur faisant croire qu'ils ont trouvé une solution, explication à leur mal-être ou leur maladie. Et du coup, en fait, à chaque fois, il crée un monstre qui crée un monstre qui crée un monstre. Et tu vois qu'en fait, ça crée un super monstre d'une galaxie, une espèce de dynastie de fous furieux, quoi.
Ouais, c'est ça, pour ça que dans le 4, c'est vrai que c'était assez maladroit de prendre des personnes genre vraiment horribles, genre une proxénète qui abuse des femmes, un violeur, bon, qui est présenté comme un voyeur, mais bon, un violeur, posons les termes, où là, bah, c'est presque pervers, parce que c'est à chaque fois, c'est le point où on te prend le personnage le plus abject, tu sais, c'est la fameuse peine de mort, non, mais oui, mais il y a les pédophiles tueurs d'enfants et tout ça, tout ça. Et là, on te prend genre ce personnage abject. Et t'en es presque à dire, oh, c'est presque gentil en fait, son truc.
Ça alterne entre des trucs effectivement très extrêmes et d'autres, tu fais, mais quel est le sens? Et en plus, lui, il est effectivement montré comme un dégueulasse
horrible.
Dans une pièce horrible.
Tu te
dis, mais vraiment, tu dis, bah, il n'y a rien qui peut raccrocher à l'humanité de cette personne. En fait, donc, c'est vraiment fait pour.
Donc là, c'est vraiment genre, c'est pas un point Godwin, mais presque. Je sais pas s'il existe un point Godwin des violeurs ou pédophiles ou ce genre de trucs.
On peut l'établir dès aujourd'hui, si tu veux.
Ça devient le point Lechner désormais.
Je voulais pas donner
la
mon nom à ça dans l'histoire.
Allez, on lance ça sur Twitter.
Mais voilà, où c'est vraiment le personnage abject qui, oui, là, justifie et légitime les actions de Jigsaw. Mais bon, après, comme on dit, c'est bancal depuis le début, parce que là, si effectivement c'est lui qui a mis au point les jeux là sur Umbrella Health, donc les assureurs, bah, t'as quand même des étapes où bah, la plupart des gens sont innocents et crèvent. D'un côté, t'as la réceptionniste ou la secrétaire, je
ah,
sais
quand
pas,
il a l'épreuve,
qui est diabétique.
Tuer, le mec ou la femme qui elle a genre 40-50 ans, une famille, et que elle, lui il est jeune et il est seul, et t'as les photos qui montrent, regarde, il est sur un banc seul, on dirait le même de Ben Affleck là, tu sais.
Ah non,
ou de Keanu Reeves, c'est genre il a pas d'enfant, il a pas de femme, donc il a pas de raison de vivre. Bah en fait, peut-être que si.
Tu sais, je me dis, putain, mais ce serait moi en fait à sa place, en fait. J'ai pas d'enfant, je
sais que c'est des victimes collatérales, le mec il a rien demandé, quoi, à part peut-être qu'il est dans le cercle social et professionnel de quelqu'un qui est jugé par Jigsaw. Donc en fait, c'est ça punition.
Voilà, donc en fait, fallait pas bosser dans cette entreprise, c'est simple.
Non, c'est ça, il bosse pour l'entreprise méchante. Encore une fois, tu retires tout le contexte social, c'est-à-dire que peut-être que le gars, il n'est pas le choix, tu vois, mais bon, ça, on saura jamais, quoi.
Bon, et comme on parle de Jigsaw, il faut qu'on parle aussi des personnages qui sont pas Jigsaw. C'est ça aussi, le truc qui définit la saga, c'est qu'il n'y a pas de personnage positif qui reste longtemps, en tout cas. C'est que très rapidement, les gens, ils meurent. Au mieux, t'as Stram qui reste quoi, 3 épisodes.
Alors, Stram, il reste pour le 4, non, pour le 3, le 4, et il meurt dans le 5.
Il meurt dans le 5.
Il meurt à la fin du 5.
Voilà. Ouais, il meurt à la fin du 5 parce que le 5, c'est sa chasse avec Hoffman, justement.
Et je crois qu'ils avaient à un moment imaginé une version où il allait pas mourir, et ils ont fini par le tuer en disant.
Vaut mieux, parce que sa mort était super drôle en plus.
Hein. Certes, mais du coup, c'est vraiment anéantir, enfin pulvériser littéralement le vecteur du positif, le justicier,
le seul vrai
réel.
Gentil de la saga,
voilà. Et éventuellement t'avais aussi le personnage de Alison Kerry, incarnée par Dina Meyer, qui est l'actrice de Starship Troopers quand même, on peut le dire, mais qui était un peu potentiellement celle qui restait en flic, qui était un peu en arrière-plan et qui est un peu arrivée au premier plan.
Il y avait Rig aussi
petit. Ouais, mais lui il est parvenu après le 4.
Il meurt donc
Il meurt à la fin, c'est vrai.
Oui.
Mais c'est tellement bordel à la fin du 4 que j'ai oublié qu'il meurt.
Bah tiens, on parle de victimes collatérales, mais dès le premier, t'as le Zep, là. J'oublie toujours le nom de cet acteur, Ben dans Lost.
Oui.
Qui, on te dit quand même que...
Ah, c'est ça, c'est Ben son prénom, dans Lost, nom de famille.
Mais on te dit quand même que le gars, il est sympa, c'est un aide-soignant qui est sympa, genre qui s'est pris d'affection pour John et tout, et au final, il se retrouve pris au piège. Donc lui aussi, genre, c'est un bon gars qui se retrouve dans un de ses pièges.
Fun fact, il y a une... partie de la saga qui explique ça, parce que du coup, pour être complétiste, vous me connaissez, j'ai lu le comic préquel de Saw 2
ça existe,
qui a été écrit pour promouvoir la sortie de DVD, il me semble, qui est esthétiquement atroce. Vraiment, j'ai perdu 5 sur 10 à chaque œil. C'était peut-être un piège, finalement. Mais dedans, du coup, ils expliquent... Alors, du coup, ça a fait plein d'incohérences avec le reste de la saga. Je sais pas si c'est canon entre guillemets, mais vu que c'est...
Tu peux donner à Déborah pour qu'elle retire son article qu'elle pète
un câble. Tu peux l'incorporer dedans. Parce que dedans, il se marie pas avec Jill, mais elle part parce que lui elle veut s'engager et que lui, il veut rester indépendant, tu vois. Et bref, du coup, dedans, on apprend qu'en fait, il a discuté pas mal avec ce Zep et que le Zep en question ambitionnait de prendre la place de médecin. Et que...
Bah et alors, c'est bien, Jigsaw, il a des ambitions, perspective de
Jigsaw,
carrière.
Voilà, Jigsaw... voit une ambition déplacée là-dedans.
T'as pas le droit d'avoir d'ambition. T'as pas le droit de fumer, t'as pas le droit de tromper
non,
ta femme.
Il y a quand même un mec qui se fait torturer parce que, je cite, il veut sauver tout le monde.
Oui,
donc,
c'est vrai. Alors ça, que
c'est l'altruisme, c'est aussi un beau défaut.
Et c'est justifié par sa femme qui lui dit « Écoute chérie, consacre plus de temps à nous, arrête d'essayer de sauver tout le monde. » Et elle part. C'est...
Mais tu sais, le traitement des femmes, dans le sens les épouses dans la saga, c'est toujours la meuf qui vient pour justifier le fait qu'il se fasse torturer. Genre « Oh, en plus, tu me trompes et tu négliges tes enfants.
» C'est vrai que Lynn, genre, bon, elle a une relation extra-conjugale et sinon, bah, elle est dépressive parce que, bah, je sais pas, son fils
ouais,
vient mourir.
Clair. Le de...
Genre avec John Kramer, t'as genre un jour pour faire ton deuil et après tu t'y remets quoi.
Après il faut cramer toutes les peluches, ouais, c'est bon, passe à autre chose.
Oh oui c'est vrai ça, t'as même pas le droit de garder un souvenir de ton enfant mort, ouais. C'est horrible.
Parce que donc dans les personnages qui sont censés être gentils, Gordon potentiellement aurait pu ne pas être si méchant que ça comme on disait, peut-être.
Bah, déjà, c'est vrai que je me demandais un petit peu ce qu'il était devenu, mais bon je me suis juste dit bah il est mort quoi, enfin il s'est vidé
c'est
de son
tu
sang
te dis, il est en train de pourrir dans un couloir quoi.
Ouais voilà, et au final dit. Il a jamais pu rejoindre sa famille, de toute façon sa famille on nous donne jamais de nouvelles d'elle. Et, ouais. Et c'est pour ça que je trouve ça tellement caricatural. Bah, déjà quand tu le vois, c'est la scène d'introduction, enfin la scène d'ouverture de
Saucette.
Pour te
rappeler qui,
voilà, pour te rappeler que déjà, hey,
ceci est arrivé.
Vous vous souvenez ? Bon après tu dis allez, c'est le chapitre final, ils veulent boucler la boucle, du coup machin machin. Et bah dès sa première apparition, t'es en mode oh non, moi non, t'es pas tourné du côté de John Kramer quand même. Et bah si, évidemment, avec un jeu aussi caricatural, évidemment que c'est ça.
D'ailleurs,
l'explication.
L'acteur lui-même n'y croyait pas, parce que si tu vas voir le commentaire audio de Saw premier du nom, qui est assez marrant parce qu'à l'époque ils sont pas du tout conscients qu'ils vont faire 10 films, l'acteur, il se moque du fait que le gars ne peut pas survivre. Il dit non mais tu rigoles ou quoi, il a la jambe coupée, il va faire 10 mètres, il va crever.
Une infection, n'importe quoi.
Voilà, c'est ça.
Non, en fait, ce côté risque d'appeler comme ça.
Ce qui prouve encore, d'ailleurs, le fait que le film a été écrit avec vraiment John Kramer en pur antagoniste, ouais. Qui, dans tous les cas, ne prévoit pas de plan de survie pour le gars qu'il prétend sauver.
Ouais. D'ailleurs, j'ai une question là-dessus, parce que j'ai toujours pas trouvé la réponse. Mais on est d'accord que dans le set, il y a une incohérence de malade qui est qu'on nous explique qu'en fait, depuis le départ, ça aurait été Gordon qui aurait fait chanter Hoffman, tu sais, qui lui aurait envoyé les lettres en mode « Oui, je sais ce que t'as fait, je sais qui t'es et tout machin », alors que c'était censé se passer avant Saw 1, donc avant que Gordon... Tu me regardes...
Qu'est-ce
là,
qui doit se passer avant Saw 1 ?
Bah, le fait que Gordon envoie des lettres à Hoffman pour lui dire « Je sais ce que t'as fait à Seth Baxter », donc le gars avec...
Ah non, pour moi, ça se passait après, qu'il ait survécu et qu'il ait été sauvé par...
Bah oui,
par
mais
John
vu
Kramer.
Qu'on nous dit que...
C'est pour ça qu'après,
truc,
il aide avec les opérations...
Passé... Ouais, mais vu qu'avec Hoffman, ça s'est passé genre bien avant... Puisque
quoi,
c'est lui-même.
Elle parle Mathieu, je comprends rien à ce qu'elle raconte.
Puisque c'est
moi, quand elle commence
lui-même.
À parler chronologie, mon cerveau il se met en pause.
Bon, okay.
Et je fais oui, oh oui.
Allez, on va dire que j'ai raison, il y a une incohérence.
On va
voilà.
Dire qu'il y a sûrement des incohérences dans cette saga, si tu veux être rassuré à ce niveau-là.
Mais c'est vrai que ça, par contre, c'est une question qui a jamais été creusée. Genre, pourquoi les personnages qui ont été victimes deviennent des complices ? Bon, allez, ça a été vite,
syndrome de
Saw
quand même.
Vite
voilà.
Fait. Avec Amanda,
le
mais
mal
sinon...
qui se répand, la folie engendre la folie, du coup tout le monde devient taré en rentrant dans cette secte. En fait,
oui,
t'es
bien
sauvé.
Sûr. Moi, y a quelqu'un qui me force à me couper la jambe, après derrière je vais me ranger avec lui, c'est tout à fait normal.
T'as deux options, soit tu viens comme la meuf qui pète un câble dans le cercle de parole en disant la vérité, genre mais pas du tout, ça m'aide pas, soit tu deviens quelqu'un de fou qui après tu deviens la nouvelle Amanda. Faut
alors,
changer de coupe de cheveux.
Aparté mais... complètement anodin, car évidemment que le film ne réfléchit pas plus à ce qu'il avance, mais le syndrome de Stockholm n'est en réalité pas du tout un concept psychologique. Et si tu te renseignes un peu, il y a des articles qui prouve à quel point c'est une affabulation de toutes pièces créée par des médias sur une affaire précise, et c'est super intéressant. Voilà.
Oui, d'accord, mais au moins quand on dit Stockholm, on sait de quoi on parle.
Oui, oui. Non, mais évidemment que les scénaristes se basent sur. Enfin, ils vont pas faire des recherches approfondies sur le sujet, ils s'en foutent.
Mais c'est pour ça, à la rigueur, Amanda, c'est parce que c'était. Enfin, elle était complètement paumée dans sa vie, effectivement, elle s'est raccrochée à John Kramer parce que c'était le seul truc auquel elle peut se raccrocher. Très bien. Le Nelson Logan, là, je... Bah non, en fait, c'est jamais expliqué pourquoi il a viré aussi taré. Quoi.
Bah c'est ouais, c'est une espèce de. Moi, je le vois un peu comme une espèce de copycat à la con, comme dans Spiral, tu vois. Il arrive un peu. Il essaie de faire pareil, mais s'il n'y a aucune justification, bah pourquoi pas.
Je veux dire, il a quand même été tailladé à
mais
côté.
C'est que
de
Gordon,
Kramer,
tu n'as aucune information sur sa vie. Tu sais pas, est-ce que tout le monde l'a quitté, il a perdu son job, sa femme, son enfant et tout. C'est juste qu'il devient fou parce qu'il s'est fait cautériser sur un tuyau dans un sous-sol.
Et puis il a
été
soigné par John Kramer qui lui a mis une prothèse.
Et puis après, j'adore ça, quand il rétropédale en disant oui, en fait, c'est lui qui a opéré l'œil pour cacher la clé dedans dans le 3 et tout. J'adore quand on se revient sur tout. On ouvre plein de portes qui étaient même pas censées être ouvertes pour t'expliquer qu'en fait, t'as pas vu. En fait, j'adore, j'ai l'impression que chaque nouveau film est quasiment un making-of de celui d'avant. Pour qu'on te montre les coulisses de. En fait, derrière la porte, il y avait Amanda. Derrière Amanda, il y avait Hoffman. Derrière Hoffman, il y avait Gordon.
J'adore. C'est trop drôle. Oui, dans la scène où on voit Hoffman et John Kramer parler, en fait, genre juste avant qu'il se passe le 3 et qu'il sort par une porte dérobée.
C'est
en fait,
incroyable.
Depuis le début, il y avait une porte dérobée.
C'est un escape game. Le truc,
on dirait le même où ils sont dans une église. Il y a un mec qui braque un flingue sur un gars et un gars qui braque un flingue sur le gars. Et en haut, il y a un sniper qui les braque tous.
C'est trop
exactement ça.
Dans les autres personnages à peu près positifs, il y avait aussi Matthews. Eric Matthews, non, c'est ça?
Ah bah non, c'est un flic corrompu.
C'est un méchant, lui?
Bah oui. Okay.
Mais enfin, c'est un moins méchant que les purs méchants, parce qu'on est dans l'échelle de Saw. Un flic pourri n'est pas si mauvais.
Il est
dans
quand même moins méchant que les gens infidèles.
Voilà. Il est moins méchant que la Suédoise avec son arnaque dans le 10, on est d'accord?
Oui, il est moins méchant. Mais techniquement, il est testé parce que c'est un flic ripou qui a inventé des preuves pour faire enfermer des personnes.
Et Pérez, elle est gentille, elle.
Ah oui, mais elle crève comme une merde.
Elle crève quasiment deux fois en plus, donc elle a un rôle assez génial dans la saga. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a quand même pas grand monde du côté humain, et je ne sais pas s'il y a beaucoup
humain,
de sagas.
Humain, t'as encore dit.
Oui, je dis humain, bah ouais, de l'autre côté. Pour dire que dans cette saga, il n'y a pas de relais humain dans le sens positif de la chose. Et est-ce qu'il y a beaucoup de sagas où, parce que je pense par exemple à Scream, où en fait tu peux tout le temps te raccrocher à Sidney Prescott, Gail Weathers, tu en tues de temps en temps, à un moment Neve Campbell n'a pas assez d'argent donc elle revient pas, mais c'est rare finalement les sagas, ou alors peut-être dans Massacre à la tronçonneuse où en fait vraiment la superstar c'est l'antagoniste et la chose négative, Hellraiser aussi, des trucs où vraiment tu peux pas trop ramener de personnages du côté des gentils et c'est pas ça le truc qui te tient,
ouais,
c'est
ouais.
Pas les acteurs, les actrices.
Je pense que c'est pour ça qu'on a souvent comparé la saga au slasher pur et dur où le personnage principal est l'antagoniste. Tu suis le méchant.
Sauf que dans le premier, il est même pas montré comme tel, contrairement
absolument.
À Slasher. C'est
voilà.
Ça que je
trouve. Après, comme beaucoup de sagas de slasher, entre guillemets, dérivés de films qui n'en étaient pas du tout à l'origine, tu grappilles, quoi. Tu parles d'Hellraiser. Enfin, je veux dire, le premier Hellraiser n'est pas du tout dans ce cas-là. J'ai pas 2000 exemples en tête, mais. Massacre à la tronçonneuse. Le premier, bon, je vais pas encore refaire l'éloge de Massacre à la tronçonneuse premier du nom, mais le premier film, l'antagoniste n'est pas Leatherface, mais la famille de Leatherface. Et lui, d'ailleurs, est presque autant une victime qu'un bourreau. C'est un mec simple d'esprit qui vit dans une famille complètement psychopathe, reflet d'une Amérique, enfin bref, voilà. Et ensuite, bah, ils en ont fait un antagoniste parce qu'il faut quelqu'un à qui s'attacher. Et que les gens qui aiment bien les films d'horreur comme moi, on aime s'attacher à des gens qui ont des masques en peau de chair et qui tailladent dans. Mais d'ailleurs, le cas Massacre à la tronçonneuse est assez comparable, je pense, peut-être à celui de Saw par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Dans le sens où c'est un film qui est très politiquement connoté, qui est devenu une pure saga de slasher, et c'est marrant la façon dont ils le mettent en scène. C'est soit tu assumes le côté politique et tu le fais plutôt bien ou plutôt mal, soit tu assumes le côté pop, et dans ce cas-là tu peux dégager, on va dire, la partie un peu politique. Donc c'est un peu la même idée. Ouais.
Et quand on regarde, puisqu'on parle des personnages de tous les côtés, on peut s'attarder sur le casting parce que c'est assez intéressant aussi les essais qu'il y a eu, notamment avec Spiral ou avec Samuel L. Jackson, qui était un peu le côté noble d'un coup hollywoodien. Au début, on a commencé quand même avec un truc pas dégueu parce que Danny Glover et Carrie Elwes, je sais pas comment on le dit, Carrie Elwes.
Carrie.
C'est pour ça que tout à l'heure je dis l'acteur qui joue.
Oui, j'ai vu que tout le monde a adroitement évité de prononcer
Gordon.
Le nom.
Gordon.
C'est comme quand je dois parler de Mia Wasikowska, là, je dis toujours la comédienne de Tim Burton.
Oui, mais tu continues à dire opu. Donc vraiment, tu te tiens.
Mais ça, j'assume. C'est comme Roger Corman, tu vois. Je le lâcherai pas.
Donc il y a Danny Glover et Carrie Elwes qui sont quand même des gens un peu établis, et c'était un casting plutôt cool, quoi. Je me dis, t'as Danny Glover pour ton premier film, même s'il a trois scènes et que c'est un personnage de merde. Bon, moi j'ai quand même encore envie de redire qu'il y a Dina Meyer dans Saw 1, 2, 3 et 4, qui est dans Starship Troopers. Elle est dans les 4, non?
Elle est dans le 4?
Non,
dans le 3.
Non, dans le 4 il retrouve son cadavre.
Ah bah elle est dans le 4, voilà. Donc dans les premiers Saw, elle est restée plus longtemps que les autres. Après il y a Donnie Wahlberg, donc le frère de Mark Wahlberg, dans Saw 2, 3, 4.
Dans Saw 2, 3 et 4 exactement, parce qu'il meurt dans le 4.
On peut...
Dans le 5. C'est pas lui qui joue le flic?
Bah
gentil.
Non. Bah non, il meurt dans le 4, puisqu'il est tué par Hoffman.
Non, c'est Eric Matthews, lui. Donnie Wahlberg.
Ah putain, ouais. Bah oui.
Oui, donc oui. Il est pas dans...
Ah d'accord, bah, si. Je confondais, je pensais que c'était Stram.
Non, Stram, je sais pas qui c'est.
Donc, bah, il meurt dans le 4, Eric Matthews.
D'accord.
On peut citer dans les pires acteurs, soyons méchants, il y a donc l'interprète de Hoffman et aussi l'interprète de Jill, qui est quand même pas...
Alors elle, j'attendais qu'on arrive sur son cas.
Il y a des moments où ils jouent tous les deux, c'est genre arrêtez s'il vous plaît.
J'ai jamais compris la carrière. Déjà, oui, bon, elle joue très très mal avec cette espèce de jeu de je suis une psychopathe, alors qu'au départ on essaie juste de me faire passer
ça,
pour
je
la.
Je pense qu'elle a pas été aidée par un personnage qui est jamais vraiment défini. Et vraiment,
entre les deux films, ils lui ont vraiment dit bon, en fait, Jill, on va tout changer.
Mais c'est ça, moi, des moments, quand j'arrive à 5 saucisses et tout, là, je me dis mais j'ai dû louper des morceaux, pourtant je pensais être éveillé, mais je comprends pas, j'ai loupé une scène où elle était méchante, et je me dis peut-être que j'ai pas compris, en fait vous me rassurez, j'ai tout compris, c'est juste que c'est pas compréhensible.
Non mais tu sais, c'est comme Amanda dans le 2 qui est un personnage qui est en fait très émotif, et t'as vraiment l'impression qu'elle croit en ce qu'elle fait, elle croit en Jigsaw, genre bon, elle est complètement aveuglée, mais c'est pas un personnage négatif réellement, et puis qui dans le 3 vire complètement psychopathe, tu sais pas comment, elle a les cheveux qui ont poussé, voilà, toute sa caractérisation a changé. Et Jill, c'est un peu pareil, mais encore plus brutal, parce que bon, au début, c'est juste la femme en flashback, ouais. Comme ça,
c'est
dans le 3.
La meuf de flashback, la ils blonde, sont contre un arbre au soleil et tout, c'est tellement kitsch,
genre,
bordel.
Pour montrer
quoi,
qu'avant,
c'est...
John, il était heureux, c'était un homme normal, qui avait une vie de famille et tout, machin. Et puis, ensuite, elle a vraiment ce jeu très froid avec ses yeux de psychopathe là, mais on essaie quand même de te la faire passer pour juste la veuve qui avait rien demandé. En fait, son ex-mari, c'est un putain de psychopathe et elle le savait pas du tout. Et jusqu'à faire le twist, en fait, elle était au courant, du coup, twist qui ne fonctionne pas du tout. Et même Jill, en fait, elle est... on sait pas pourquoi elle se dit, bon, bah au final, ce que fait mon ex-mari, ça va, ça peut peut-être porter ses fruits. Alors qu'au début, on essaie quand même de te dire qu'elle tient une clinique pour les toxicomanes. Donc, c'est une personne qui a conscience que toutes ces problématiques, c'est pas juste de arrête si t'as vraiment la volonté d'arrêter. Et en fait, non, après, ça change totalement. Et après, je crois que c'est dans le 6, ils mettent un flashback où, en gros, ça explique. Parce qu'en fait, il y a Amanda qui vient la voir et qui fait, non, mais vraiment, la méthode de John, je t'assure, ça fonctionne. Hein. Regarde-moi.
Ah, d'accord, j'avais un doute.
Je suis
merci.
Très saine.
Et je repense à cette scène dans. C'est dans celui où elle meurt, donc c'est sous 3D.
7.
Où elle se cache dans une pièce et il la retrouve. Et en fait, quand il arrive, c'est ridicule parce qu'il y a la porte entrouverte. Donc tu te dis, c'est un piège, elle a dû se planquer ailleurs. Et en fait, le montage est tellement mauvais qu'elle est cachée contre une étagère. Et tu te dis, au moment où il arrive à côté et qu'il la voit, t'as l'impression qu'elle n'est pas cachée à cet endroit-là. Et en fait, si, elle est sous ses yeux. Et tu te dis, mais pourquoi tu t'es planqué là? T'es complètement débile. Lui, il vient de tuer le commissariat en entier. Il l'a retrouvée à l'autre bout du monde. Et elle ouvre une porte sans la fermer. Et elle se cache derrière une commode à gauche. Elle se dit, sur un malentendu, ça devrait aller quoi. Ça me tue. Donc Jill, vraiment le haut du panier. On peut citer Julie Benz qui joue dans Saw 5. Alors soit c'est l'actrice de, pour certains, de Dexter, mais c'est aussi de Buffy et Joe Breaker.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Donc, quand même une grande actrice des années 90-2000.
Tous ces comédiens des séries un peu pétées des années 90 qui se retrouvent dans Saw.
Et surtout qu'elle, elle dit j'adore le bullshit promo, c'est trop drôle à relire avec le recul. Elle dit, j'avais jamais joué dans un film d'horreur psychologique. C'était très compliqué. J'ai vraiment fait des cauchemars. J'ai eu un peu genre des séquelles psychologiques et je pense que je verrai jamais le film. Un film d'horreur psychologique. On parle du Saw où il jette une meuf dans une baignoire pour l'électrocuter et à la fin, il se vide de sang en se coupant la main en deux. C'est psychologique quoi ça. Et d'ailleurs j'adore parce qu'à la fin ils arrivent donc dans la pièce où les flics arrivent et elle dit, oh, vous en êtes sorti, mais on avait mal compris. Elle s'effondre et tu dis, ces gens là on les reverra plus jamais, qu'est-ce
non,
qu'ils sont devenus.
Non, elle est pas
quoi.
Au groupe de parole, bah, ça se trouve elle est juste morte de ses blessures parce que bon bah ou alors elle s'est suicidée après parce
personne
que
ne meurt jamais de ses blessures dans Saw, rappelle-toi.
Oui c'est vrai.
Si Gordon survit, tout le monde survit.
Rappelle-toi quoi. Que dans Saw 10 il dit un truc du genre la chair peut se refermer ou je sais pas quoi.
Attends. C'est pour Gabriella, il dit la peau ça se regreffe et les os ça se ressoude.
Ah oui, c'est vrai, oui. Non, mais... Et donc, je trouve ça drôle qu'en arrivant à Saw, à la spirale, il se soit dit, quand même, on rajoute un peu en quali. Chris Rock, et vraiment, quand l'équipe parle de Chris Rock à l'époque sur comment le film a eu lieu avec lui et tout, ils en parlent comme une superstar, d'une rockstar, genre Chris Rock fait un film saut, c'est ouf. Et Samuel L. Jackson et Max Minghella, qui, bon, c'est pas le haut du panier, mais
qui
il
a une tête de méchant et oh oh, c'est un méchant.
Mais c'est marrant de se dire que donc Spiral, ils ont essayé un peu de relever un peu le niveau à tous les étages en disant on fait un film qui ressemble à un vrai film, enfin un truc qui ressemble à Seven, version cheapos. On met des acteurs qui sont un peu reconnus et sur Saw 10, qu'est-ce qu'ils font? Il ramène Tobin Bell, il ramène Shawnee Smith. Et bon, l'actrice qui joue la méchante, je trouve qu'elle est assez cool. Tu l'as vu dans quoi, toi?
Ouais, c'est dans Ragnarok, la série Netflix.
Donc de qualité aussi.
Ouais, elle jouait déjà une méchante très monolithique.
Ok. Donc voilà, le casting, je trouve que c'est un peu. Tu sens un peu la courbe aussi de. Ah oui, il y a aussi l'actrice de Seth à la maison dans Saw 2. Ça, c'est génial.
Oui, c'est vrai.
Il joue le pire rôle, qui meurt comme une merde dans un couloir.
Oui,
tu
oui.
dis, ah, mais t'es morte. Bon, bah salut.
Oui, je me souviens. Et du coup, on sait pas ce qu'elle a fait, à part de la prison. Moi, je me demandais, ouais. Parce que justement, c'était tout le truc. Genre, c'est quand même un peu comme dans le Jigsaw, genre des gens qui ont l'air bien sous tout rapport et qui en fait s'avèrent des gros psychopathes, comme celle qui a étouffé son bébé, fait accuser son mari, qui s'est ensuite suicidé en prison.
J'adore. T'as le contrôle du express, quoi.
Mais il y a pas mal d'acteurs qui jouent dedans en mode. En fait, on est fan de la saga. Alors, bien sûr, il y a Chris Rock qui serait de lui-même allé voir les prods, je sais pas où, pour leur dire.
Alors, il raconte qu'ils se sont vus par hasard à mariage.
Oui, c'est ça. Ouais.
C'est génial, ça.
Pour leur dire.
Comment Spiral a eu lieu? Comment cette merde a eu lieu? Grâce à un mariage, quelque part.
Comme quoi?
Voilà, qui leur aurait dit j'adore Saw. On peut pas en faire un Saw, s'il vous plaît?
Avec moi dans le premier rôle, s'il vous plaît.
Mais il y a aussi Chester Bennington, chanteur de Linkin Park, qui joue dans la scène du garage du set qui est hyper gore et qui a. Probablement une des morts les plus trash de la saga, parce qu'il doit s'arracher la peau du dos pour aller chercher une clé.
C'est surtout la réaction en chaîne qui est quand même assez ludique. Je sais pas si ludique est vraiment le mot.
Si, ludique. Mais... je pense que c'est
avec l'autre, il se fait écraser la gueule avec
j'aime
la
bien
roue
cette scène.
Attends, retraçons. Donc lui, il est dans la voiture, au siège conducteur, et il doit tirer une manette en s'arrachant toute la peau du dos qui a collé à la glu.
Parce que, attention, en fait, il est raciste. Du coup, s'il s'arrache la peau, il va comprendre qu'en dessous de la peau blanche...
On a tous la même couleur.
On a tous la couleur au fond.
Bah, est-ce que tu peux dire que c'est faux?
Blanc, si tu retires le N, ça fait black.
Et sous la roue arrière, il y a sa copine Skinhead.
Ouais.
Derrière, attaché par les bras et la mâchoire, il y a un mec.
Ouais.
Donc si...
un mec.
Il y a un mec
y
de
en
la
un
bande.
Aussi.
Et il y a un mec contre la porte du garage. Donc,
voilà.
Comme lui, il n'arrive pas à arrêter la voiture, la roue tombe, la voiture démarre, arrache la moitié du corps du mec, défonce la gueule
le visage
de contre eux.
La visage de sa copine.
Et écrasée, ouais. La voiture tombe sur elle, le mec derrière se fait arracher les bras et la mâchoire inférieure.
Ouais. Ce qui est vraiment dégueulasse pour le coup.
Ouais,
ça.
C'est pas mal ça. Le mec se fait enfoncer la gueule par la voiture quand elle passe à travers la porte du garage.
Ouais.
Et lui, comme il emboutit un truc, il passe à travers le pare-brise et donc sa peau, dans tous les cas, est arrachée. Donc on voit que dessous, il est comme tout le monde.
Voilà. Mais du coup, je me demande, est-ce que ce gars a survécu?
Non. Après, tu vois vraiment.
Il y a des gens qui survivent à des pires blessures dans la saga.
Ouais, j'avoue, là, il a juste.
Ouais, mais là,
la peau
je crois que quand il vient après sur les lieux du crime, tu vois qu'il est encore en position. Quoi. Donc,
je suis sûr qu'ils ont fait une greffe de peau noire.
Mais lui, pour le coup, je comprends que quelqu'un se dit, je veux jouer dans la saga Saw, mais je veux être tué.
Ouais.
Genre Sarah Michelle Gellar dans Scream 2, tu dis, ben, j'apparais, j'ai une scène, je me fais tuer. Mais venir en tant que fan pour des scènes un peu nazes où t'es là pendant la moitié, c'est pas marquant.
Bah,
quand Julie Benz, personne se souvient d'elle. Il y a 5 victimes. Déborah fait.
Bah, moi, le bras tranché dans la longueur, pour
ouais,
le coup,
mais ils sont deux
souviens.
À faire. D'ailleurs, je pensais qu'elle était méchante à ce moment-là. Je me souvenais plus. Je me suis dit, non, mais je pensais qu'elle se foutait de la gueule de l'autre et qu'elle faisait genre, ah, j'ai mal, et que c'est lui qui se vidait de son sang à côté. Moi, j'aurais pensé
à ce qu'elle fait au début avant de se rendre compte que ça va être la merde. Et du coup, elle dit, bah, il faut que j'y aille quand même.
Mais oui, Bennington, c'est presque comme l'histoire du mariage, mais pas vraiment, parce que c'est un des membres de son groupe qui était voisin d'un producteur. Ouais, Los Angeles, hein, c'est un petit monde.
J'espère qu'il n'a pas étouffé son enfant.
Bon, comme on parle des pièges, on parlait de morale, parlons des meilleurs et des pires pièges, puisque c'est là, évidemment, le sujet principal. Donc, on est tous d'accord pour redire que celui de la voiture est assez drôle.
Ouais.
C'est un des plus
c'est
ludiques.
Le côté réaction en chaîne qui est très ludique.
En fait, il est vraiment débile avec cette histoire de Skinhead, donc c'est marrant.
Oui.
Et c'est vraiment gore. L'arrachage de menton.
Quels sont les autres qui sont
bien? Moi, il y a deux catégories vraiment que j'aime bien. J'aime bien
la psychopathe qui a réfléchi.
Tu vois, par exemple, dans Saw 10, la meuf qui doit s'amputer, qui doit faire elle-même le geste, il ne s'agit pas de mettre son bras quelque part pour qu'il se fasse écraser. Enfin, tu ne peux pas rester passif. Genre, tu es vraiment obligé de donner à fond pendant tout. De donner à fond. De donner tout ce que tu as.
Mais tu tiens, quoi. Vraiment, il faut que tu prouves que tu as la
meilleure.
Tu vois une chèvre, toujours.
C'est trop ça. Genre, il faut vraiment continuer. Donc, ça, c'est vraiment le côté pervers. Sinon, j'aime bien les pièges qui sont dans le sadisme un peu psychologique, en mode, bah, comme on disait, dans Jigsaw, qui pour le coup, je trouve assez réussi. C'était en fait, si tu prenais la mauvaise décision, bah, c'était foutu avec le gars qui tire une balle et qui du coup, en fait,
explose la
clé.
Oui.
Enfin, la meuf, voilà, qui tire, qui explose la clé, qui du coup condamne l'autre gars. Ouais. Ou sinon, ah, celui-là que j'aime bien aussi, c'est celui avec l'avocat, tu sais, Art Blank, qui a la bouche cousue. Et il est relié à un treuil par le cou à un gars qui lui a les yeux cousus.
Oui,
et du coup, ils peuvent pas communiquer. Et l'autre lui balance des haches et tout jusqu'à ce que bah, l'avocat soit obligé de tuer l'autre parce que bah, ils peuvent pas communiquer. C'est ludique, c'est marrant.
Elle
c'est
a
malin.
Des étoiles dans les yeux, on dirait qu'on parle des cadeaux de Noël. Et toi, Mathieu?
À l'époque, celui qui m'avait le plus marqué, je pense, c'est celui avec les bras qui tournent là, qui est adapté d'une torture médiévale. D'ailleurs, je crois que je crois que Boozman lui-même avait dit que, en le concevant, il s'était dit, wow. On allait loin là quand même. Et mais dans la suite, bon, celui du début du 6, c'est quand même là pour le coup dans le côté grand guignol, il me fait beaucoup
donc
rire.
C'est le
pound of flesh quand ils doivent se couper des morceaux pour la balance.
Il y a après c'est le côté humour quand la meuf elle réévalue, genre elle pose le couteau à un endroit puis après elle dit non un petit peu plus.
Celui-là est vraiment drôle dans le sens comique. Et il y en a deux qui me marquent plus maintenant, je pense. Il y en a un, c'est par pur qui est celui où ils doivent elle va remonter de sa gorge un truc qui est dans l'hameçon, le fond de son l'hameçon dans sa gorge là.
Et ben c'est Bobby, c'est celui qui a
usurpateur, hein,
ouais
c'est ça.
Voilà, c'est ça qui doit tirer l'hameçon et tout sans qu'elle crie.
Et c'est dans
elle
lequel
pas crier, ouais.
Et c'est dans quel saut celui-là?
C'est le dernier.
7.
Ah, mais le 7, il est gratiné. Hein.
Ouais, il est pas mal.
Et il y a celui-là, et il y a un que je trouve assez amusant, car très révélateur, qui est le piège à loup inversé dans le 7, qu'ils font marcher sur Gilles. Et ça, c'est amusant parce que le premier jouait sur la suggestion de tu t'imagines de ce qui va se passer avec ce piège à loup. Et dans le 7, ils se disent plus rien à foutre. De toute façon, il n'y a plus de suggestion, il n'y a plus de subtilité. Tout ce qu'on veut, c'est de la tripaille. Et on va montrer ce que ça fait. Et bordel de merde.
Surtout, tu le vois à la fin du 6 quand Hoffman y échappe. Oui. Puisque tu dis, il va y passer. Ouais.
Et s'arrache un morceau de joue.
Le fout dans une porte, bordel. Genre,
d'abord, il
ça.
Se pète la main pour pouvoir se libérer.
Tu vois, lui, il a l'agnac. Ça, c'est une bonne personne, tu vois.
Ça, c'est un battant, ça. Il va créer son entreprise après.
Ça, c'est un fan de Thibaut InShape. Il sait comment la vie fonctionne.
La douleur, c'est dans la tête. Et oui, en plus, c'est malin la façon dont il s'en sort en bloquant l'ouverture du truc.
Ah non, mais un point pour le clairement, il a mérité de survivre.
Et puis après, il y a quand même cette scène très drôle dans 7 où t'as Jill qui fait un cauchemar comme quoi Hoffman la tue. Et il y a cette réplique qui me tue. Oui, dans le fait de te tuer, ce qui me dérange le plus, c'est que je peux pas le faire deux fois.
Surtout cette scène, quand je l'ai vue, j'avais oublié que c'était un rêve, cauchemar, fantasme pour le public visé. Et tu te dis, mais c'est quoi ce piège, cette espèce de train là avec la pointe et qui la coupe en quatre et après t'as son sein qui tombe. Tu dis, mais c'est n'importe quoi.
Il peut pas lui tirer une balle dans la tête quand c'est pas possible.
Puis en plus, elle est vraiment genre entravée avec le mini short de pyjama. La caméra, elle a des angles un peu chelous de prise et tout.
Ça me rappelle le piège dans Saw 3 où ils rentrent dans le frigo et t'as la meuf attachée complètement à poil, te dit ils se sont dit quel est notre public et que veut-il, allez on va lui donner assez rapidement.
Encore une fois, pur cinéma d'exploitation. Franchement, c'est vraiment... c'est
même si le piège est quand même horrible, je trouve. En plus, il joue avec les températures et tout. Encore une fois, c'est inventif,
ludique, c'est ludique.
L'eau très très froide sur la madame, sur une pièce très froide qui congèle.
Mais t'as pas parlé, Déborah, de ton piège préféré, surtout quand tu manges la marmite de cochon. Donc on est encore dans Saw 3 et c'est quoi, c'est le juge?
Attends, j'en parle, ça remonte, sérieux.
Elle va vomir sur la table de réunion.
Il pourrait vomir dans le film, mais il le fait pas d'ailleurs. J'étais déçu en le revoyant.
C'est vrai.
Parce que tu vois, je trouve que pour repartir sur d'autres films,
ça manque de réalisme cette saga quand même.
Mais un truc que j'ai toujours trouvé absolument atroce dans les hostels, notamment, c'est le fait que les premières grosses scènes de torture, tu vois les mecs réagir physiquement. À la chose, et c'est là que Eli Roth est plus dégueulasse encore que les films Twisted Pictures, c'est que tu vois le mec dégueuler de douleur, se pisser dessus, enfin, c'est vraiment les fluides de partout, c'est la négation de la dignité humaine au bout du bout. Alors tu peux trouver ça abject de montrer ça en salle, tu vois, mais le fait est qu'il allait au bout de son truc, quoi.
Oui, parce que c'est toi, Mathieu, qui disais pendant Saw 10 que tu t'attendais à ce que quelqu'un s'évanouisse pendant l'épreuve en te disant, en fait, il va perdre parce que physiquement, il ne peut juste pas le faire.
Bon, ça, c'est un truc que tu t'imagines voir dans beaucoup de films, mais en fait c'est marrant parce qu'on les voyait en les sauts, tu passes ton temps à te mettre à leur place, et je pense que dans 90% des cas, et je dois vraiment pas être le seul à le penser, moi je ferais juste un coup de trombone dans la tempe plutôt que de m'arracher des morceaux de chair. Ça me va, hein, mort simple et rapide,
je me laisserais
crever, tu vois. Et il y a personne qui fait ça. Ils ont jamais joué cette carte sur les dizaines et dizaines de pièges, parce qu'on est vraiment encore dans cette logique de cinéma d'exploitation, qui est que la configuration idéale d'un piège à la Saw, et c'est le cas dans la plupart des pièges de Saw, c'est que les personnages aillent au bout de leur torture, mais qu'ils crèvent quand même.
Oui, alors, pour que
parce qu'ils ont un peu trop réfléchi avant d'y aller.
Parce qu'avant, ils ont trop hurlé.
Bah, c'est ça qui est terrible dans 10, c'est que vraiment, ils sont à deux doigts. Tu te dis, la meuf, elle s'est coupée la jambe, bravo à elle quand même. Et le dernier truc qu'elle doit faire. Non, mais applaudissons, félicitations. Et
elle se coupe pas la jambe à la cheville, ah ouais, elle se coupe la jambe à la hauteur de cuisse, quoi.
Et puis encore une fois, c'est pas juste elle se met dans un mécanisme, c'est elle qui y va jusqu'au bout.
Ah non, elle y va, même si moi je me demande si elle aura pas pu couper avec ce truc là. On a eu un débat après, est-ce qu'elle aura pas pu couper la corde autour de son cou? Ça aussi, c'est le débat des sauts. À quel point tu pourrais t'en sortir? Moi, je me demande, dans Saw 2, la meuf qui met ses mains dans le piège avec les lames, est-ce qu'elle n'aura pas pu mettre une seule main jusqu'au
mais
bout?
Mais elle lit après, pas la cassette.
C'est le sujet du piège, ouais. C'est que
et
si,
après,
elle y va trop
elle aide avec la deuxième main, tu vois. Et elle...
Moi, je me dis, s'il s'était mis à plusieurs, tout le monde aurait pu soulever une lame et elle se serait fait mal.
Mais ça, à la limite, c'est dans la narration du 2 où ils sont censés. Travaillent ensemble, entre guillemets.
Ça, c'est plutôt le 6.
Ouais,
bah,
6
aussi,
drôle,
mais il y a aussi cette notion qu'il y en a un qui pète un câble et qui fout le bordel dans leur groupe.
Ils sont trop impulsifs.
Et que s'ils
étaient... pas bien d'être
impulsifs. Voilà, et s'ils jouaient ensemble, finalement, eh ben, ils auraient pu s'en sortir de façon beaucoup plus facile.
Bon, après, ensemble, en ouvrant la porte, quelqu'un se prenait une balle dans la tête, hein, donc ça ne changeait pas grand-chose.
Peut-être s'ils se mettaient sur le côté, comme ça, et qu'ils auraient... Mais c'est comme la porte du four, là où il y a le gars qui
le
meurt. Je me suis toujours demandé, mais... Pourquoi personne n'a eu l'idée de se mettre devant la porte du four et tout le monde bloque? Parce que bah, tu vois bien le traquenard venir quand même.
Non, mais dans 110, quand ils sont dans la pièce, donc le couple de méchants, et que l'alarme retentit et que personne ne court en dehors de cette pièce et qu'ils attendent que ça se referme,
ils cherchent le fric. C'est parce qu'ils voulaient absolument le fric.
D'accord, mais dans ces conditions-là, excuse-moi, je me jette entre les deux portes, tu vois. Mais bon, on peut, comme on parle des pièges, il y a aussi le côté numérique. Je sais que la question du numérique, toi, on parlait pas mal, Mathieu, qu'à partir de Jigsaw, il y a quand même des trucs genre les lasers où ça devient un peu moins joli, un peu moins agréable à l'œil, et que donc il y a un côté un peu bon faiseur de la technique qui est l'inventivité des pièges, des effets plateaux, versus un peu la connerie du numérique à des pièges où après ça se perd un petit peu.
Faut leur reconnaître quand même une abnégation envers leur art, entre guillemets, autant dans le gore que dans la confection des pièges en eux-mêmes, qui sont quand même... des constructions parfois plutôt malignes. Tu vois, les décors sont souvent ces genres d'entrepôts dégueulasses qu'ils ont dû construire sur 10 mètres carrés en studio. Mais il faut reconnaître que les pièges sont parfois spectaculaires. Ils les construisent en vrai et tout. Et ouais, les effets gore. Alors, à part la fin de Jigsaw qui est parmi les pires CG gore de l'histoire. Mais on parlait du piège à loup inversé qui est réutilisé. Franchement, Saw 7, ils avaient largement de quoi y aller à fond sur le gore numérique. Et non, ils ont dû, je sais pas, créer une prothèse de fausse tête et l'ouvrir en grand avec plusieurs couches de gore derrière, de caoutchouc et de trucs qui suintent.
Ah, il y a du détail. Hein.
Et ça déconne pas, franchement, les effets gore sont très cool. Le mec qui se fait écrabouiller entre les deux, là, à la fin du 5.
Ça, c'est très bien.
L'effet de l'os qui sort, ils auraient pu le faire.
Le sound design est très très bien. En plus,
c'est
un truc qu'on a toujours envie de voir dans les Indiana Jones, dans les Star Wars.
Oui,
mais qu'est-ce qui se passe quand des gens sont écrasés entre deux parois? Bah, merci.
D'ailleurs, le réel dit qu'ils l'ont pensé comme ça, en fait.
Ou même dans le 6, quand t'as le gars qui se prend de l'acide dans le corps et qui, en fait, se dissout l'intérieur.
Ah, ça, j'adore. Mais ça, c'est un des meilleurs, quand même. À la fin, tu vois
vraiment
le bas du corps tomber, quoi. C'est tellement drôle.
Et tu vois tous les organes, et je suis sûre que vraiment, si tu regardes bien, anatomiquement, ça doit se tenir.
Moi, je trouve que c'est bien. Comme ça répond un peu à la curiosité biologique, tu vois, de vraiment qu'est-ce qui se passe si tu jettes certains liquides, certaines matières sur le corps humain. Bah, ça se passe pas bien.
Après,
mais à quel point
je serais curieux de le voir avec un chirurgien quand même, ça doit être marrant. C'était je diverge un peu, mais il y avait une émission YouTube qui était faite par Screen Junkies à l'époque, et malheureusement ils ne l'ont plus fait, et c'est dommage parce que je trouvais ça hilarant, où en fait ils prenaient des sagas d'action, alors ils en ont fait très peu. Et il y avait un médecin avec eux qui expliquait combien de fois le mec aurait dû crever. Et il détaillait à chaque fois qu'il lui arrivait un truc, les fractures, etc. qu'ils ont fait. Et donc, ils ont fait toute la saga Die Hard comme ça. Et t'apprends que John McClane, il aurait dû crever mais 67 fois, tu vois. Il tombe de 4 immeubles. Et ça aurait été rigolo de faire un truc pareil avec la saga Saw. D'avoir un chirurgien qui dit à quel moment tu t'évanouis, à quel moment tu peux vraiment le faire ou pas, quelle partie du cerveau tu peux enlever pour avoir toujours ton
Moi, je pense qu'on peut mettre des bras sur un journalisme d'investigation à faire. une vidéo enquête sur la saga.
Bah ouais, ce serait pas inintéressant d'aller contacter un mec qui s'y connaît un peu pour lui demander
surtout
de voir le film.
On se faisait la réflexion le jour, mais c'est vrai qu'on te dit jamais que Jigsaw, par exemple, il donne une grosse dose d'adrénaline aux personnes, tu sais, pour pas que. Parce qu'il existe des trucs pour dépasser ses conditions et tout ça, pour moins ressentir la douleur, mais non.
Non, tu fais appel à ta propre adrénaline, comme un grand.
Pour ça, je me dis, je serais morte.
Ouais, comme
après, en tout cas, il faut reconnaître du coup qu'ils font des bons effets pratiques à une époque où la tentation du CG gore est grande, et d'ailleurs à partir de 2006-2007, à la louche, hein, quand même beaucoup de grosses sagas d'horreur vont recourir à ce procédé. D'autant plus que dans le set qui est tourné en 3D, ils auraient vraiment pu rajouter des couches. Oui. Et bon, il y en a un peu, mais...
Mais pas tant que ça.
Pas tant que ça. Ils restent majoritairement sur des effets gore vraiment à l'ancienne. Et d'ailleurs, sur le set, il y a un truc qui est marrant, je trouve, c'est que quand tu le revois, du coup, le son est un peu rose. Parce que clairement, ils misaient sur la 3D, ouais, qui assombrit l'image, hein, c'est bien connu. Et vu qu'ils partaient du principe qu'on allait voir le film dans ces conditions, bah, quand tu le revois en 2D maintenant, ça fait un peu rose. C'est assez marrant. Et c'est ça fait un peu clair d'ailleurs aussi.
C'est pour ça que dans le 10, ça marche bien parce que les effets, notamment de la cuisse coupée, ça rend très efficace. Quoi.
Même la craniotomie, elle est bien faite.
Ouais, ouais.
Non, il y a du bel ouvrage.
Il y a du bel ouvrage.
Et comme on parle de gore, est-ce que tu veux faire une parenthèse sur le torture porn? Parce que dès qu'on parle de Saw sur le site, les gens nous disent torture porn. T'avais fait un article il y a des années là-dessus. Ouais. Est-ce que Saw a lancé le torture porn? Est-ce que ça l'a relancé? Est-ce que pour ou contre le torture porn?
Déjà, ça vient d'où le terme torture porn?
C'est là que c'est intéressant, parce que dire Saw a lancé le torture porn, c'est à la fois très vrai et très faux en fonction de comment tu considères le torture porn. Parce que le terme torture porn vient d'un article en fait qui a été écrit par un critique qui s'appelle David Edelstein dans le New York Magazine, et l'article s'appelle Now Playing at Your Local Multiplex Torture Porn. C'est de là que vient le terme, et cet article est à charge. C'est un article qui explique que dans la production américaine mainstream aujourd'hui, il y a de la torture. Alors il parle de Hostel, il parle du premier Saw parce que Saw 2 est sur le point d'arriver, mais il suppute que ça va partir en steak après. Mais il parle aussi de la dernière tentation du Christ, de la passion du Christ, pardon, le Mel Gibson, même de 24 heures chrono, des trucs comme ça, où il y a de la torture, tu vois. Et son analyse, elle est moins purement horrifique que thématique, c'est-à-dire la torture qui revient en force dans le cinéma hollywoodien par tous les ports, en fait, par tous les sens.
Surtout que je suis en train d'y penser, 24 heures chrono a été très critiqué, le post 11 septembre sur en fait la torture, la fin justifie les moyens, ce qui est un peu l'idée, la loi du talion dans Saw, en fait, de est-ce que c'est si pire, est-ce que c'est pas la bonne solution.
Il y a aussi beaucoup de gens qui ont analysé ce mouvement là notamment un théoricien français qui s'appelle Pascal Français, dont je vous conseille la lecture des livres, qui est quelqu'un de très intéressant, qui a sorti un bouquin donc sur le torture porn, et il est pas le seul, hein, mais il lit ça fondamentalement au 11 septembre, et surtout aussi à ce qu'il y a eu derrière, c'est-à-dire que déjà t'as le 11 septembre qui vient complètement attaquer une population occidentale qui se croyait à l'abri de tout conflit désormais, et en plus de ça, eh bien, la question de la torture est carrément revenue dans le débat public après, voilà, Guantanamo, etc., je veux pas un dessin. Donc voilà, il y a tout un tas de critères. Bon, c'est difficile évidemment de pas penser à l'émergence du web qui à l'époque quand même y allait très fort dans le « Hey, maintenant on a accès à tout, regardez tout !» Et ça fait un peu flipper. Il y a la peur du snuff qui revient parce qu'on a accès à un réseau qui est beaucoup plus large. Mais après, le concept même de torture porn n'est évidemment pas un truc qui a été inventé avec Hostel ou Saw. Des millions de gens l'ont dit avant moi. Dans le cinéma d'exploitation, il y avait déjà de ça. Cannibal Holocaust, excuse-moi, mais c'est un peu la même mécanique. Dans le cinéma japonais underground, évidemment que c'était là depuis longtemps. Les Guinea Pigs sont évidemment l'exemple le plus cité, à raison. Où là, vraiment, en plus, on est dans une forme complètement dépouillée. Hein. On n'est pas loin du faux neuf, où c'est de la torture à l'état pur. Donc, non, ils n'ont pas du tout inventé ça. Mais ce qui fait l'originalité, entre guillemets, de cette vague de torture porn telle qu'elle a été décrite par la suite, c'est que c'est hyper populaire. Ouais. À l'époque, personne ne pensait qu'un film sur la torture ferait 150 millions de dollars au box-office. Et c'est ce qui est arrivé. Et beaucoup de détracteurs, du coup, ont un peu assimilé les deux de façon un peu insidieuse. Du coup, oui, les deux genres sont liés. Et d'ailleurs, il n'y a pas de genre, justement. C'est une sorte de mouvement qui est plus social et thématique que réellement acté. Et de toute façon, comment tu caractérises la chose, tu vois, c'est difficile. Il faut qu'il y ait acte de torture, mais dans quel carcan? Parce qu'il y a des films très sérieux qui parlent de torture, etc.
Oui, parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc péjoratif du côté porn. De toute façon, on t'en donne de manière un peu bête, comme un fast-food, sans réflexion, juste en fait, tu le vides un peu de son sens, le côté torture et violent.
Là où Edelstein a, c'est le moins un peu réac, parce qu'en soi, il a pas tort en disant qu'il y a une vague américaine de ce niveau-là. C'est que lui, il compare ça à la pornographie. Bon, ça a été...
Et le porno, c'est pas bien.
Ouais, déjà, il y a une sorte de valeur morale autour. Et en plus, le sujet a été abordé de plein de manières. La violence représentée à l'écran n'est pas... Enfin, c'est quand même un gros raccourci de lier les deux. Après, bon, lui, voilà, il parle de gros plans, etc. Et C'est un sujet hyper riche, on pourrait en parler pendant des heures, mais ça, on n'a pas le temps. Mais après, il faut bien dire qu'il y a eu une vague post-saut qui, du coup, a été affublée du sobriquet torture porn, mais c'est du post-saut. C'est juste, ça a cartonné, du coup, tout le monde a voulu faire la même chose, du post-saut et du post-hostel.
Mais il y a quoi, par exemple,
hostel,
du post-saut, cartonné. Post-hostel.
Bon, alors, il y a des trucs qui représentaient... Enfin, déjà, il y a eu un film qui a été directement produit par Twisted Pictures, qui s'appelle The Tortured, par exemple.
Je pense que c'est assez clair, hein, le titre.
Et ensuite, on a eu des tas et des tas, mais vraiment...
The Collector, on en parlait juste Collector, avant.
Même si, en vrai, il botte un peu sur le côté, parce que c'est plus, tiens, c'est plus des pillages dans vraiment le sens, premier sens du terme, tu vois. Mais ensuite, il y a eu bon, toute la vague des trucs un peu plus extrêmes, du style 902, le Serbian Film, bien sûr, The Human Centipede, ou... Ils ont remonté à chaque fois la barre un peu plus. C'est devenu un défi pour les ados de qui va soutenir le plus de dégueulasserie.
C'est pour ça que j'aimais bien The Loved Ones qui parasite un peu le truc avec la comédie teen en mélangeant ça au torture porn. Et je trouvais le film vraiment malin de jouer sur les deux registres en fait.
Bah, disons qu'après, ce qui s'est passé aussi, c'est que la tolérance, on va dire, de certains studios, de certains producteurs envers l'extrême violence a monté. Et ça a permis à des cinéastes très intéressants de faire des films qui parfois ne tenaient pas du torture porn, mais avaient des thématiques intéressantes. Alors dans ma vidéo, je cite The Woman de Lucky Mackie, qui je pense n'aurait pas pu exister sans cette vague-là, et qui est quand même un film hyper intéressant, très critique envers le modèle américain. Pour le coup, c'est vraiment un anti-saut. Et bon, je cite évidemment, parce que j'adore ce film, mais Martyr, qui évidemment rentre pas vraiment dans cette définition, parce que lui fait plutôt référence au Mondo, ces trucs-là. Et bon, le torture porn étant lui-même l'émanation d'un cinéma d'exploitation,
c'est
une boucle, tu vois, c'est le truc qui se mord la queue. Bon, et aujourd'hui, on pensait que c'était terminé, puisque ce qui s'est passé, c'est soit c'est complètement mort dans le mainstream, soit c'est revenu dans les affres de l'underground, dans le toujours plus. Mais SoX, voilà, qui débarque et qui fait, bon, bah en fait, les gens sont toujours une appétence pour l'ultra-violence. Après, je pense que c'est juste un effet de franchise, hein, plus,
oui, c'est
que,
ça,
plus
parce que
le genre lui-même.
À côté de Saw, tu vois, on n'a pas réussi à citer une autre saga qui essaie de le copier. C'est un peu quand même de niche, dans le sens où quand tu retires l'étiquette Saw, et même Saw lui-même a eu du mal à réussir à recréer le truc autour sans John Kramer, bah finalement, ça n'a pas donné grand-chose, en tout cas dans le mainstream.
Absolument. Voilà. De toute façon, comme je parle du cinéma d'exploitation auparavant, le torture porn, c'est un peu à l'image de la saga Saw, ça a ça de fascinant que c'est l'émanation d'un truc qui autrefois était complètement coltiné aux arrière-boutiques des cinémas d'exploitation ou même carrément sous le manteau, quoi. Et c'est venu dans le mainstream, sur le devant de la scène, ce qui a forcément outragé beaucoup de gens. Et ça, c'est assez fascinant d'avoir eu ce genre de petit microcosme mouvement de l'extrême dans le cinéma grand public. Tu peux l'analyser par des tas de biais différents, sociaux, thématiques, tout ce que tu veux. Mais comme tout bon cinéma d'exploitation, et c'est pour ça que c'est un sujet qui me passionne, c'est des films qui sont plus intéressants pour ce qu'ils racontent en tant qu'objet dans une période précise que parfois les films en eux-mêmes, ce qui est assez fascinant.
Parce que là, on arrive à Saw 10, qui donc marche plutôt bien box-office, fait des scores avec un budget similaire, un peu comme à la bonne période de la saga, même si c'est pas la plus rentable, puisque le premier reste le plus rentable vu son petit budget. Et est-ce que la saga Saw peut continuer après Saw 10? Est-ce que ça va continuer à relancer un truc? C'est la question qu'on peut se poser parce que c'est pas non plus un giga succès, c'est un succès à peu près dans les clous par rapport aux 4, 5, 6 à l'époque un peu glorieuse. Est-ce que on peut se dire qu'il y aura un Saw 11? Qu'est-ce que ça va raconter? En fait, d'un côté, est-ce que les gens ont encore un appétit pour le torture porn, sachant qu'il a pas vraiment réussi à exister hors Saw dans le mainstream? Et qu'est-ce que la saga peut raconter après ça? Puisque là, donc Saw 10 se passe entre Saw 1 et Saw 2. Ça veut dire que la suite de Saw 10 existe déjà, elle s'appelle Saw 2. Et que la suite de la saga existe déjà, et qu'en fait, le dernier épisode dans la réelle chronologie de cette fiction à la con qui existe, c'est Spiral. C'est ça, c'est le dernier en date. Spiral, qui à l'époque a été présenté comme un Saw parallèle et pas un Saw 9, a été en fait transformé en Saw 9 pour que celui-ci s'appelle Saw 10. Est-ce qu'ils vont faire une suite à Spiral?
Je pense vraiment pas. Je crois que c'était prévu. Au moment où justement il y avait Saw 10 qui avait été annoncé, un des producteurs avait dit qu'il y avait ce projet Saw 10 mais aussi un projet Spiral 2. Maintenant, où est-ce qu'il en est?
Tu crois vraiment un film qui va sortir qui va s'appeler Spiral 2, l'héritage de Saw? Non mais qui va aller voir ça? Donc, sachant que Spiral a coûté 20 millions, c'est-à-dire un des plus gros budgets de la saga, et a fait 40 millions, un des pires box-office de la saga. Donc, évidemment que ça n'est pas rentable. Personne ne veut revoir Chris Rock. De toute façon, est-ce qu'il serait vivant à la fin? C'est laissé en suspens qu'il est dans la merde, en tout cas.
Non, je crois qu'il est juste triste parce qu'il y a son père qui est en train de mourir sous ses yeux. Il est juste en train de hurler, de faire non, papa, comme ça, un truc.
Et par contre, le méchant Max Minghella donc est encore vivant puisqu'il ferme la porte de l'ascenseur et dit game over, donc il pourrait continuer, mais tout le monde s'en fout.
Il y a Gordon qui pourrait continuer aussi, mais
voilà, il y a plusieurs disciples dans la nature. Il y en a au moins 3, officiellement.
Ils vont faire un crossover, ça va être génial.
Non, mais c'est ça. Mais personne veut la suite de Spiral. J'ai lu à l'époque que même Lionsgate avait annoncé qu'il parlait, discutait depuis un moment d'une série Saw qui n'était pas définie, qui à l'époque était plus ou moins considérée comme peut-être une suite de Spiral sous forme de série. Ça n'a jamais été officiellement annoncé, mais en tout cas, l'idée d'une série Saw n'a jamais été ressortie depuis, je crois. Moi, j'ai jamais rien vu là-dessus.
Jamais rien vu non plus.
Donc, où est-ce que peut aller Saw? Où est-ce qu'on a envie que ça? Et parce que franchement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire après Saw 10 s'ils restent avec John Kramer? S'ils ont établi qu'en fait, les gens veulent John Kramer, ce qui a l'air d'être le cas après Spiral, et que les scénaristes eux-mêmes ont reconnu qu'ils voulaient rétro-pédaler et que toutes les idées qui ont été balancées après Jigsaw et Spiral, c'était « il faut ramener John Kramer, il faut ramener John Kramer ». Et en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? À quel moment ils peuvent ouvrir une parenthèse?
Genre à chaque fois, tu prends la frise chronologique, tu pousses deux films et t'en mets un au milieu en disant, tu vois cette réplique là, et ben en fait ça voulait dire ça, et bah, t'as déjà l'impression que c'est ce qu'ils font depuis longtemps.
Moi, je vois venir le reboot, le remake, tu vois, parce que là c'est leur porte de sortie. Enfin, et d'ailleurs, quand tu compares avec toutes les autres grosses sagas horrifiques, elles sont toutes passées par cette étape là. Ouais, il manque plus qu'à le faire, quoi. Voilà, sur 10 films, quand même, ils essayent de tenir une chronologie de plus en plus bordélique. Ça finit compliqué de
dire. Alors, ils vont faire le Legacy Quell à la Halloween en se disant le premier, on n'y touche pas.
Spiral,
et on revient à partir
Spiral du 2. Spiral était déjà un peu vendu comme ça. Hein. C'était un peu le Legacy Quell de le premier Saw qui était très thriller et du coup, on leur prend les mêmes teintes.
Ouais, mais c'était pas aussi explicite que les Halloween et l'Exorciste qui dégagent complètement, ouais, ou Terminator qui dégage, tu vois, les suites en se disant on reprend, on essaie de le faire un peu en bonne et due forme.
C'est tellement aberrant parce que bon, bah, le premier Saw c'est 2004. Du coup, là, si tenter de faire des suites, ce serait 20 ans après avec les mêmes acteurs qui sont censés. Non, je vois pas comment ça.
Tu vois, quelqu'un vraiment se dit on fait un remake de Saw qui a été fait avec 3 bouts de ficelle et on le fait du coup avec un vrai budget.
Mais après, pareil, je me demande, est-ce que les gens sont attachés à John Kramer? Est-ce qu'ils sont attachés au John Kramer de Tony Bell? Enfin, parce que quand même, pour Saw 3, il y avait une idée que je trouvais quand même assez à la fois incroyable et vraiment effrayante. Mais c'est un ancien responsable marketing de Lionsgate qui a eu une idée pour promouvoir le film. C'est de mélanger du sang de Tonin Bell à l'encre rouge d'affiche en édition limitée. Voilà, il y a eu à peu près 1000 exemplaires qui ont été tirés avec du sang de Tonin Bell.
Pareil avec un vinyle, c'était cool.
Qui était vendu 20 balles l'affiche, juste pour avoir 3 gouttes de sang de Tonin Bell dilué dans de l'encre rouge. Ouais. Bon, évidemment, tout ça, c'était fait aussi parce que au bout d'un moment, ils avaient mis ça en place, je sais pas à partir de quand, mais c'est des campagnes de don du sang, en fait, en partenariat avec Lionsgate. Et là, c'était pareil, c'était pour promouvoir le marketing.
Ça, c'est cool quand même, parce que finalement, la saga a sauvé des gens, quoi.
Tu vois, on peut dire merci Dixon. Ah, vous êtes vilain.
Mais il faut quand même qu'il y ait une fascination pour le personnage de Tonin Bell qui a été choisi, comme tu dis, pour sa voix, qui est quand même un acteur avec beaucoup de prestance, de charisme, qui a vraiment prêté sa gueule et sa voix au personnage. Donc, est-ce que ça fonctionnerait avec juste un autre acteur, en fait?
C'est ça, peut-être, le problème de la saga, c'est que contrairement à un Scream, par exemple, ou Michael Myers, c'est une entité qui a un visage humain, du coup, ils peuvent pas changer de masque, enfin, changer de visage sous le masque, et il y a un truc de, il est incarné, réellement. Et à chaque fois qu'ils ont essayé, alors c'est là que je me dis, est-ce qu'ils ont fait exprès de créer autant de disciples nuls? Genre, quand ils ont inventé le personnage de Max Minghella et qu'ils l'ont casté, est-ce qu'ils se sont vraiment dit, ce mec à la carrure pour incarner le Jigsaw des 5 prochains films?
Non, parce que même là,
dans ce rôle-là, avec cette écriture et tout, tu vois, ils ont pas. Quant à Tobin Bell, il a un truc, tu vois, il a de la bouteille, il a un visage, il a une gueule, il a un truc très spécifique. Max Minghella, il a une belle gueule, mais il a une belle gueule un peu lambda, j'ai rien contre lui, mais tu vois, il a pas un truc aussi fort que Tobin Bell. Et je me dis, mais est-ce qu'ils ont essayé à un moment, est-ce qu'ils ont eux-mêmes cru dans cette idée d'un vrai disciple pour prendre la succession?
Ou alors peut-être qu'ils pensaient vraiment que le twist était absolument imprévisible et que s'ils castaient un acteur avec un peu une belle gueule, un peu innocent, tout ça, genre on y verrait avec du feu, alors que c'était évident que c'était lui le méchant dès le début, donc peut-être qu'ils jouaient là-dessus pour créer la surprise, contrairement à un Tobin Bell qui a beaucoup plus de prestance, de charisme et quelque chose de plus inquiétant dans la voix ou le visage. Là, ils ont pris vraiment... une personne, t'as envie de lui faire gouzi-gouzi sur la joue, quoi, parce qu'il est tout mignon.
De toute façon, comme tout depuis le début, tu te demandes à quel point, en faisant Saw 10, ils ont réfléchi à la suite, ou est-ce qu'ils vont se dire on improvisera, de toute façon, après, on ressortira notre tableau avec les 45 traits et tout dans tous les sens, on va ouvrir tel tiroir, et après ce tiroir-là, on verra bien. Tant pis si là, on vient de se tirer dans les pattes, on verra bien pour la suite. T'as l'impression qu'en fait, ils ont pas appris, sauf le fait que c'est pas obligatoire de préparer la suite, parce que dans tous les cas, ils trouveront une petite porte pour sortir et avancer.
Absolument. Et ensuite, il y a le problème de la concurrence. Je pense que plus que ce qu'on peut croire, ce est aussi influencé par la franchise est très influencée par les mouvements d'horreur, on va dire, qui est autour d'elle. Et quand on revient aux premières fois où la saga a vraiment faibli, et bah c'est très 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 lié à ça, étant donné qu'on a dit, il y a la semaine dernière d'ailleurs je crois, que l'une des raisons qui ont fait qu'ils ont fait un seul film, Saucette, au lieu de deux, c'est parce que le 6 avait fait un peu moins bon au box-office, ce qui est vrai, il a fait je crois 86 millions, enfin dans les 80 millions de dollars de recettes, ce qui est pas mal. Hein, mm-hmm. Mais en fait, ce problème vient d'un autre film, qui en était à l'époque à sa cinquième semaine, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et qui s'appelle Paranormal Activity. On est en 2009, et il y a la trajectoire de ce film qui a lancé Blumhouse, Warren Penny, tout ce que tu veux, qui est hyper atypique. Hein. Il est sorti dans quelques salles, et ça a fait une sorte de méga buzz. La promotion était savamment orchestrée. Bon, on en a déjà largement parlé. Et il monte au box-office, au point d'arriver avec des milliers de salles, moins de 2000 salles pour être honnête, ce qui était quand même vachement moins que Saucisse qui avait 3000 salles quand il est sorti. Et ben le fait est qu'à sa cinquième semaine, pour la première fois, Paranormal Activity arrive en tête du box-office américain avec son budget de, je sais plus, 50 000 balles, ouais. Truc complètement lunaire. Il fait donc, je crois, 21 millions de dollars de recettes sur juste ce week-end-là, alors que ça fait déjà 5 semaines qu'il est à l'affiche. Et bah, ils se sont fait un peu battre là-dessus, ils ont pas vu le truc venir, quoi, tu vois, le truc, il était là, un peu en embuscade depuis le début, et c'est hyper symbolique, parce que, bah, Paranormal Activity, les grands débuts de la mode du fan footage, qui va un peu, bah, prendre le pas de la mode du torture porn dans les années 2010.
Et c'est drôle, parce que déjà, le premier saut était inspiré du projet Blair Witch, enfin, en tout cas, la façon de faire, la production et c'est tout. Vrai,
Et que dans les idées qu'ils avaient, James Wan, à l'époque, comme on a dit la semaine dernière, il y avait un truc qui ressemblait à l'embryon de Paranormal Activity. Donc, ils ont dû se dire, mais sérieux, quoi.
C'est la bataille du low budget. Et du coup, forcément, ils sont forcément fait un peu... le phénomène saut a perdu en ampleur à côté du phénomène Paranormal Activity, qui, je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, mais c'était partout, quoi.
Ah si, c'était fou. C'était incroyable. On nous rendait ça comme un truc super effrayant et tout. Et c'était vraiment the big événement de l'année, quoi. Ça.
Et c'est quelque chose qui est arrivé ensuite sur le set. Et je pense que c'est une des parties les plus fascinantes de la production des sauts. C'est que, à la base, celui qui devait réaliser... Saw 7 est la même personne qui a réalisé le 5, qui s'appelle Peter Cust, c'est ça? Non, je sais plus comment il s'appelle.
Pourquoi tu me regardes
Parce que tu sais tout, Déborah.
C'est David Hackel, c'est David celui Hackel. Qui était chef d'écho et sa femme a eu un cancer et sa femme va bien.
Exactement.
Ne vous inquiétez pas, mais.
Exactement. Et ce qui devient intéressant, c'est que du coup, Paranormal Activity est distribué par la Paramount. Et là, il y a une petite guerre qui s'est mise en place parce que Saw 6. Devait sortir en octobre de l'année d'après, donc Saw 7, pardon, devait sortir en octobre de l'année 2010, et pareil pour Paranormal Activity 2, qui était attendu comme le méga blockbuster d'horreur, évidemment, de cette époque-là. Et là, Paramount, ils les ont carrément attaqués, parce qu'ils se sont mis sur le même spot, genre sur le même jour, sauf que...
C'était le Barbenheimer de l'époque, en fait.
C'était, voilà, sauf que, les analyses mettaient Saw en déficit par rapport à Paranormal Activity, ils les mettaient en dessous. Du coup, ils ont peut-être un peu paniqué à Lionsgate, et là, ils ont fait un move de gros bâtard. Ils ont utilisé une clause du contrat d'un réalisateur qui s'appelle Kevin Guttert, et qui a donc réalisé Saw 6, et qui était parti chez Paramount pour réaliser Paranormal Activity 2. Et cette clause du contrat lui impose de revenir à n'importe quel moment, donc ils ont piqué le réalisateur de Paranormal Activity au nez à la barbe de Paramount,
mais
pour
Paramount
le mettre sur leur film. Et c'est lui qui a réalisé Saw 7.
Mais ils ont réussi à faire Paranormal Activity 2 et sortir en même
Paranormal
temps.
Paranormal Activity 2 a changé de réalisateur et tout et tout.
Ah, ils l'ont fait suffisamment au dernier moment pour foutre le film en l'air.
Ah oui, mais alors, c'était tellement au dernier moment qu'ils l'ont changé 2 semaines avant le début du tournage de Saw 7.
Oh, j'adore.
Et mais attends, mais c'est lui qui a réalisé Saw 10 aussi.
Oui.
Ok, ouais, voilà, c'est ça.
Et lui, Guttert, il était hyper deg parce que sur son blog, il a fait un post qui dit qu'il est super triste parce que, et c'est véridique, il le dit, ça fait des années qu'il parle avec sa mamie qui voulait faire un film d'horreur qu'elle pouvait enfin voir et non, il se retrouve à encore faire de la torture.
Elle a pas de cancer, sa mamie, c'est bon.
Je sais pas. Mais du coup, le gars, il a été obligé de le tourner, ce qui explique certaines choses.
Incroyable.
Et clairement, il avait pas envie. D'autant qu'en plus, ils lui ont foutu la 3D entre les pattes et il avait pas du tout d'expérience avec ça et ça le saoulait à fond.
Ah bah ça se voit.
Il a essayé de faire une réécriture, mais tout était prêt. Les décors étaient prêts, les acteurs étaient prêts, tout était prêt. Il ne pouvait rien faire. Donc, il s'est retrouvé avec un flingue sur la tempe quasiment à réaliser Saw 7. Et Hackl, qui du coup, lui, avait été, il devait faire le film à la base. Lionsgate, ils lui ont dit « Ah, on va te filer un autre projet. » Je vais aller voir sa fiche IMDB. Il n'y a pas de projet Lionsgate avant 2021, qui est un truc qui s'appelle Dangerous et qui est un film d'action avec Scott Eastwood, Terry Gibson et Mel Gibson. pas sûr que ce soit ce projet-là sur lequel ils l'ont mis.
Putain, mais Lionsgate ont vraiment retenu les préceptes de Jigsaw.
Donc, il y a eu une guerre absolue. Paranormal Activity 2 a finalement été réalisé par Todd Williams. Mm-hmm. Et finalement, bah, il a quand même fait plus. Avec 177 millions de dollars. Par contre, Saw va bouger de son créneau du 22 octobre, qui était déjà occupé par Paranormal Activity. Donc, mais les studios se sont fait une guerre par réalisateurs interposés. Et il y a vraiment un truc hyper symbolique sur le genre qui prend l'autre de...
Mais surtout qu'on arrive aujourd'hui, Paranormal Activity est en état de mort cérébrale, je pense, non? C'est quoi le dernier? C'est 7, 8
qui est immonde.
On s'en fout, plus personne n'en parlait, tu vois.
Non, mais en plus, il est sorti en streaming, je crois qu'il n'est pas sorti en salle, justement, le 7 était sur Paramount+.
C'est marrant, parce que Paranormal Activity, qui est quand même une saga de folie, qui a créé un phénomène qui a été hyper rentable, aujourd'hui a finalement moins de carburant que Saw, qui arrive au 10e, qui continue à faire des très beaux chiffres, et Paranormal est clairement allé dans le mur. Alors, je sais pas si c'est un problème de gestion ou juste de... Il y avait tellement peu au départ que avec quoi tu peux continuer à exploiter le filon paranormal, mais donc c'est finalement dans la course, ils ont fait un marathon et Saw a gagné quoi.
Ouais, ouais. Bah, d'autant que Saw ils sont vraiment revenus à un truc hyper gore et Paranormal Activity est jamais revenu à un truc hyper fun footage. Enfin, tu vois, genre c'est d'ailleurs tellement gore que le 7 en France, rappelez-vous, il y avait l'histoire de Promouvoir. Je sais pas si tu te rappelles, il est sorti en 2010 et l'association Promouvoir, qui donc promeut, je cite, les valeurs judéo-chrétiennes, a fait appel auprès du Conseil d'État pour censurer le visa d'exploitation, comme on dit. Alors, à l'époque, il était moins de 16 ans avec avertissement, il me semble, ce qui est déjà une interdiction bien costaud. Et ils ont finalement obtenu gain de cause en 2015. Et donc, ils ont réussi à lui enlever son visa d'exploitation pour lui en avoir un plus restrictif. Le film a été classé moins de 18. Et eux ont eu 3500 balles de la part donc, du Conseil d'État pour leur problème, quoi. Enfin, on leur a filé de la thune.
Pourtant, ils sont pas contents qu'un film dise que l'adultère c'est pas bien.
Bah ouais, c'est ça qui est assez fascinant parce qu'auparavant, leur cible, bon, ils ont fait Nymphomaniac. Oui. Bon, voilà quoi, ils ont fait Love plus récemment.
Est-ce que Jigsaw c'est pas une forme évoluée de Jésus, comme un Pokémon qui a évolué finalement? Est-ce qu'il est.
J'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là. Je te laisse seul sur la plongée.
Ce qui est assez rigolo, c'est que l'avis du Conseil des cas de 2015, il est obligé de se justifier et il dit que c'est à cause de nombreuses scènes de très grande violence. Bon, ça d'accord, filmé avec réalisme. Donc bon, t'as du mal à y croire.
Bah, peut-être qu'ils ont fait appel à un médecin. Eux, ils ont fait cette enquête et le médecin a dit c'est très réaliste.
Mais peut-être qu'ils pensaient à cette dernière anecdote que, désolé, je la pousse un peu au forceps, mais il fallait que je la dise parce qu'elle me fait mourir de rire. Qui est un cinéma dans le Massachusetts qui organisait une projection de Megamind pour l'anniversaire d'un enfant de 7 ans et de toute sa famille, sauf qu'ils se sont trompés de DCP et qu'ils ont passé Saw 3.
Ils l'ont pas passé pendant genre 10 minutes et tout.
Ils ont passé jusqu'à la fin de la scène d'intro, donc la fameuse scène dans le centre commercial avec la scie, ils ont tout vu.
Je comprends pas, il y avait aucun parent qui a pu bloquer.
Si, si, mais les parents, ils étaient fous.
En fait, ils ont pété un câble, mais le temps qu'ils stoppent le film, c'était fini.
Et puis, genre, même si tu couvres les oreilles du gosse et tout, ils entendent les cris.
Quel super cadeau d'anniversaire.
Non, mais c'est trop marrant.
Et les gosses, ils ont fait des cauchemars ou je sais pas
oui,
quoi.
Oui, oui, oui.
Les parents
ont témoigné pour dire que le gosse a fait des cauchemars, ce qui est évidemment l'évidence.
Ça va, est-ce que mes gamins.
Oh, ses enfants.
Oh là là, franchement. Hein,
faut... Nous, on regardait Massacre à la tronçonneuse à 7 ans.
Regarde, Mathieu, ils sont très bien sortis. Bon, ça fait plus de 2 heures qu'on parle de Saw, donc je pense qu'on va arrêter parce qu'on a fait quand même 2 réunions plus de 2 heures à parler de barbac et de torture, donc je pense que nos parents seraient fiers. Est-ce qu'on n'arrêterait pas là pour notre propre bien? En tout cas pour moi, je pense que j'ai atteint mon quota de sang et j'ai même pas encore relu les commentaires d'écran large pour aujourd'hui, donc je pense qu'on va arrêter. En tout cas, en vous écoutant débattre de la morale de Jigsaw, en t'entendant parler de torture porn et d'enfants confrontés à de la torture, je me dis que le monde a vraiment besoin qu'Écran Large fasse un jour un podcast. Et le podcast d'Écran Large aurait alors vraiment besoin que les gens reviennent chaque semaine, mettent une bonne note sur les applications d'écoute et en parlent autour d'eux pour qu'on devienne le plus grand podcast cinéma de tous les temps, et parce que franchement, moi j'y crois beaucoup.
Ouais, y a un commentaire qui dit qu'on sait pas déposer notre cerveau et qu'on est des vieux cons qui réfléchissent trop, ça marche aussi.
Bah, ça donne envie de créer une épreuve pour ces gens qui nous critiquent en leur disant qu'ils devront littéralement déposer le cerveau de quelqu'un.
Le leur.
Gagner l'épreuve.
On va jouer à un jeu.
Let's play a game. Tu vas regarder Fast and Furious et déposer le cerveau de ton ami.